Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit
« T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne !»
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence, bienvenue dans Saletan pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Aujourd'hui, Saletan spécial format interview, parce qu'on aime toujours autant parler de films directement avec ceux qui les font. Pour ce numéro, côté intervieweur, ils sont deux, ils sont en forme, ils ont affûté leurs questions. On retrouve Julien, salut Julien.
Salut Clémence.
Super en forme.
Non, j'ai pas l'habitude en fait, comme la configuration a changé, que j'ai pas le micro en face. Pardon.
Et on retrouve Stéphane. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et c'est vrai qu'on a un nouveau studio tout neuf avec des canapés, des fauteuils, une table basse.
Des canapés.
Ce qui justifie en fait de réinviter nos invités en fait.
Tout à fait. On va y venir dans un instant. Et puis, l'équipe ne serait évidemment pas complète sans notre producteur, réalisateur, monteur de compète. Salut Alain.
Salut Clémence.
Côté interviewé, ils sont deux aussi et on va finir par croire qu'ils ont un abonnement chez nous puisqu'ils nous avaient déjà rendu visite la saison dernière. Un duo qui sévit depuis 2007 dans le cinéma d'horreur. La dernière fois, ils venaient nous présenter The Deep House. Aujourd'hui, ils vont tout nous dire sur Candisha. Bonjour Julien Maury. Bonjour Alexandre Bustillo.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Aïcha,
elle est très content, elle est.
Je suis très bien sur le nouveau canapé. Ils ont appris qu'ils sévissaient, tu vois.
Ouais, c'est ça. Quoi. Ils font chier tout le monde depuis 2007.
Il fallait bien que je reformule et que je reprenne la même présentation que la fois d'avant.
C'était très bien, Clémence.
Aïcha Candisha, c'est une créature surnaturelle issue d'une légende marocaine. Extrêmement belle, elle possède aussi, selon les versions, des jambes de dromadaire, de chèvre ou même d'âne. Et surtout, Aïcha Candisha apparaît la nuit et séduit des hommes seuls avant de les tuer. Dans Candisha, le film, vous revisitez cette légende, sauf que cette fois, l'histoire se déroule non pas au Maroc, mais en banlieue parisienne. Ça sort en DVD le 3 novembre, mais on peut d'ores et déjà voir le film depuis cet été en VOD. Alors après le grand classique de la maison hantée avec Deep House, vous vous attaquez à un autre grand classique, hein, donc cette légende marocaine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter cette histoire-là? Comment est-ce que vous en avez entendu parler?
Alors c'est moi qui en ai entendu parler le premier entre Julien et moi, entre guillemets, parce que moi j'habite depuis toujours à Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie qui est une ville connue pour une très grande cité qui s'appelle le Val-Fouré, où il y a une énorme communauté marocaine. Car Aïcha Candisha, c'est une créature du folklore marocain. C'est-à-dire qu'en Algérie, en Tunisie, ils ne connaissent pas du tout. Ce n'est pas du tout lié aux autres pays arabes. C'est vraiment spécifique au Maroc. Et moi, depuis toujours... dans ce fameux quartier du Val-Fouré, j'y ai jamais habité dans ce quartier évidemment, hein, mais j'y ai toujours été par contre plus ou moins intégré dedans, entre guillemets, parce que j'avais une nounou, puis après j'ai fait mon lycée là-bas, j'avais plein de potes, etc. Donc énormément de copains marocains.
Et là tu viens de passer le bac.
Et ma femme, et ma femme est originaire aussi de ce quartier. Et c'est elle la première qui m'a parlé d'Aïcha Candisha, parce que petit, c'était vraiment une légende urbaine que les jeunes d'origine marocaine racontaient aux autres. Et c'est un dialogue qu'on a repris dans le film. Souvent, les parents disaient de ne pas aller jouer dans les caves parce qu'il y a Aïcha Candisha. C'était juste pour mettre en garde les enfants pour ne pas aller faire des bêtises dans des endroits un peu dangereux. Donc, c'est la première fois que j'ai entendu parler de cette légende. Et après, au fur et à mesure, en contact avec des amis, justement, donc d'origine marocaine, essentiellement. Moi, je posais toujours un peu la même question aux gens. C'est une question que je pose souvent. C'est qu'est-ce qui te fait le plus peur? Et à chaque fois, les gens d'origine marocaine me racontent « Mais c'est Aïcha Candisha ». Donc on s'est intéressé à cette légende. Et un jour, j'en ai parlé à Julien en me disant, mais c'est incroyable quand même, cette créature du folklore marocain qui est très, très vivace dans les cités. De ne pas en faire un film, finalement, parce que c'est nous, avec Julien, on adore les histoires liées au folklore français. C'est ce qu'on essaye de faire plus ou moins à travers certains films comme Livide, par exemple. Mais là, on trouvait que c'était intéressant, justement, de ramener une légende typiquement nord-africaine dans un contexte français très, très réaliste, sans artifice. C'est-à-dire, c'est pas, on ne l'a pas rentré au forceps dans les banlieues, cette légende, parce qu'elle est très vivace dans les banlieues encore. Et c'est marrant parce qu'on a tourné le film donc en Belgique, où il y a énormément aussi d'une très très grosse communauté marocaine. Et à chaque fois avec Julien, on faisait le test. Dès qu'on croisait quelqu'un d'origine marocaine, on lui demandait mais de n'importe quel âge, hein, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Mais de 7 à 77 ans, la réponse est toujours la même, c'est Aïcha Kendisha. Donc voilà, c'est comme ça en tout cas que nous est venue l'idée de construire cette histoire et ce film autour de cette légende.
Julien, tu veux peut-être ajouter un truc? Sinon,
En fait, quand Alex m'en a parlé, moi ça m'a tout de suite interpellé parce qu'en fait dans cette créature, il y a un côté très universel en fait. C'est-à-dire que en s'intéressant à la légende, on a commencé à retrouver évidemment plein de choses que tu retrouves dans des croyances et dans des cultures d'autres pays, et donc qui se répondent comme ça. Donc il y a de la sirène, il y a de la succube, il y a de la dame blanche, et donc du coup je me suis dit bah ouais, en fait c'est hyper intéressant parce que on peut ramener un espèce comme ça de démon antédiluvien dans un contexte très très moderne. Et tout de suite, en fait, je me suis dit, mais ouais, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment une idée à creuser, quoi.
Qu'est-ce qui vient vraiment de la légende et qu'est-ce qui vient de vous, en fait? Parce que vous avez dû retravailler, en fait, cette mythologie-là, en fait. Et je me demandais ce qui était vraiment issu de la légende. J'imagine que tout le rapport au portugais, par exemple, bien tout sûr, ça, ouais, ouais.
Alors, Aïcha Kendisha a vraiment existé. Donc, elle a été, quand le Maroc était sous l'occupation portugaise. C'était une résistante. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'était une femme très très belle, évidemment, qui avait pour habitude donc de séduire des soldats portugais, de les emmener dans des coins un peu, tu vois, dans des ruelles un peu sombres, où en fait elle était toujours, elle, avec une escorte de mecs armés, et donc qui se chargeaient de tuer les soldats qu'elle charmait. Et donc, c'est une femme après qui a été donc attrapée par les Portugais, torturée, son mari a été tué devant ses yeux, torturé pendant 7 jours, etc. Et c'est devenu une sorte de martyr, en fait. Puis après, une sorte de légende urbaine, où il y a très peu, finalement, de choses. Hein. On retrouve très, très peu de choses, à part, comme tu disais, Clémence, en préambule, sur son aspect, qui peut changer un peu de région en région. Ça dépend dans quelle région du Maroc t'es, mais ils ont tous, plus ou moins, tu vois, des descriptions différentes du personnage. C'est un personnage qui vit généralement près de la mer, vraiment, mais pas dans les terres.
Ou des cours d'eau.
Voilà, près des cours d'eau. Et c'est plus ou moins ce qu'on sait, tu vois, Julien. C'est comme disait Julien, c'est aussi un peu l'équivalent de la Dame Blanche, quoi. C'est la légende fait que raconte qu'elle charme les hommes et qu'elle les pousse à la folie ou au suicide ou qu'elle les tue. Mmh. Et donc nous, autour de ça, on a brodé un peu notre propre mythologie, c'est-à-dire comme on l'avait fait un peu sur Livide, finalement, avec les vampires. Tu vois, on s'approprie un truc et après on rapporte notre touch.
En fait, elle est devenue en fait quelque part une fonction, c'est-à-dire c'est la fonction du croque-mitaine, comme le disait Alexandre tout à l'heure, le côté tu vois, raconter aux enfants, tu vois, attention, il y a une menace qui peut peser sur toi si tu te comportes pas bien, etc. Mm-hmm. Donc le propre de la légende urbaine, quoi.
Alors là dans votre film, pour le coup, elle est pas croque-mitaine dans le sens où elle va être invoquée. On va lui demander de venir. Elle apparaît pas de manière spontanée.
C'est vrai. oui, bien sûr. En fait, c'était ça faisait partie de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de cette envie de ramener cette légende dans cet univers où on s'attend pas à voir ça, en fait, avoir une croyance millénaire comme ça. Et donc là, oui, elle est invoquée dans un but bien précis aussi, et donc qui est donc l'aspect vengeresse de cette créature aussi, quoi.
Moi, j'aurais bien aimé parler d'un truc, en fait, avant peut-être qu'on rentre dans le détail du film, en fait, en soi, c'est que justement, avec un sujet comme ça, comment est-ce qu'on le vend en France, en fait, si tu veux, là, je sais que vous avez bossé avec Guillaume Le Mans, avec Esprit Frappeur et tout, mais comment, en fait, on arrive à convaincre les gens, déjà, c'est un vrai film fantastique, ce qui est un peu plus trop le cas des films de genre français. Avec les deux autres qui sont sortis cette année, comme La Nuée ou Titane, c'est discutable, hein, à mon sens. Là, c'est pas discutable, c'est un film fantastique. Et du coup, comment est-ce que, en fait, vous arrivez à convaincre les gens de financer un film comme ça, de se dire ok, en fait c'est un sujet qui est pas connu, c'est un folklore qui est pas connu, on n'a pas l'habitude de faire forcément ce genre de film en France. Est-ce que vous avez de la résistance en fait à ce moment-là sur un sujet comme ça? Est-ce qu'on vous demande de préciser des choses? Est-ce que en fait on vous dit bah d'accord, mais vous le faites sous ce type de film, genre
c'est la réponse peut être très longue parce que c'est ça a toute ta réponse a découlé le processus de création du film, c'est-à-dire que nous on a écrit une première version. Mais que pour nous, comme on le fait souvent avec Julien, c'est-à-dire on n'attend jamais d'être signé ou même d'intéresser un producteur, c'est-à-dire on écrit toujours quasiment tous les jours en fait, et parce qu'on aime ça, tout simplement, et parce qu'on sait que personne viendra, ou très rarement du moins en France, nous proposer des scénarios déjà écrits sur des sujets qui nous plaisent vraiment, donc on alimente notre propre machine. Donc c'est pour ça qu'on a des tiroirs de scénarios qui seront sûrement jamais tournés. Et Candisha en a fait partie, c'est-à-dire en fait avec Julien, donc on l'avait écrit sous le coude, quoi, je disais, parce qu'on aime tellement le truc, on va le développer. Et un jour en fait on était avec Alexandre Aja à la Fémis pour une sorte de masterclass, bref. Et en sortant, Aja nous dit les gars, je viens de lire un scénar qu'on me propose, je vais pas le faire parce que je peux pas, mais ça pourrait vous plaire, ça s'appelle Dans la brume, c'est bien écrit et tout, je vous l'envoie. Donc Alex nous envoie le script de Dans la brume. Effectivement on le lit, on dit ouais, c'est ce qui nous surprend surtout, c'est que c'était très bien écrit, un peu à l'américaine, tu dis ah putain, wow, enfin un truc intéressant en France. Et donc on voit, ah c'est Guillaume Le Mans, qu'on ne connaissait pas du tout, qui est donc le scénariste essentiellement à l'époque de Fred Cavaillé, des films qu'on aime beaucoup, parce qu'on aime beaucoup le cinéma de Cavaillé. Et on se dit, ah bah ça serait cool de le rencontrer, Guillaume, en fait, parce qu'on se connaît pas. Et puis Dans la brume, on a trouvé ça cool, même si on n'avait pas l'intention de le faire. Donc je crois que c'est toi, Jules, qui l'a contacté, genre sur Facebook, quoi.
Excuse-moi, mais pourquoi vous aviez pas l'intention de le faire, en fait, Dans la brume?
Bah parce que...
On nous l'a pas proposé.
Ouais, c'est pas ça. C'est
simplement,
pas,
vous l'aurez proposé, vous auriez
je dit sais oui. pas.
Non, c'est vrai?
Pourquoi pas, ouais, honnêtement je sais pas, Julien, peut-être. En tout cas nous on ne partait pas dans la démarche de se dire on va
d'accord.
rencontrer Le Mans pour essayer de se vendre pour faire Dans la rue, surtout qu'à l'époque il y avait déjà un réal en plus. Donc on rencontre Guillaume, et vraiment sur genre on va boire un verre, quoi, vraiment une rencontre totalement tu vois, informelle, juste pour se connaître. On lui dit bah nous Aja il nous a passé ton scénar, on trouve ça génial qu'il y ait des scénaristes en France de ta trempe, parce que c'est assez rare. Et donc Guillaume il a notre âge, donc on s'est tout de suite très bien entendu. Et en sortant, voilà, il nous parle de tous ses projets, parce qu'il est très prolifique, Guillaume. Donc il nous parle évidemment de Dans la brume, qui à l'époque rentre en prépa. Et il nous dit, vous écrivez quoi? Vous avez des trucs à me faire lire? Ça m'intéresse, parce que je monte ma boîte Esprit Frappeur. Donc il commençait à se lancer dans la prod. Et donc on lui dit, bah écoute, nous on vient de finir un scénario, là, ça s'appelle Candisha. Et donc on lui fait lire, et deux jours après, il nous rappelle pour dire, ah mortel, je le prends. Donc on n'a absolument pas du tout bataillé, en fait, c'était vraiment un gros coup de chance, parce qu'il a adoré le concept avec sa partenaire, donc qui s'appelle Delphine Clot, qui est l'autre productrice associée d'Esprit Frappeur, l'ont lu tous les deux et ont adoré le concept.
Mais quand t'as quelqu'un comme Guillaume Le Mans qui se met à produire ton scénario, est-ce que lui, il te fait réécrire? Est-ce qu'il y avait des demandes spécifiques sur ce que vous aviez écrit? Vous n'êtes pas parti, j'imagine, avec le scénario tel que vous l'aviez posé, non?
Non.
Non, bien sûr. En fait, non, bien sûr. Il y a eu une grosse phase de réécriture, de travail ensemble. En fait, justement, ça rejoint ce que tu disais, Steph, c'est-à-dire que on s'est beaucoup posé la question de comment présenter les choses, de comment amener le fantastique, de qu'est-ce que tu vois, est-ce qu'on le fait de manière frontale, est-ce que c'est plus insidieux, etc. Et en fait, on a énormément réfléchi et fait des versions différentes, c'est-à-dire que le scénar est parti dans plein de directions. Et en fait, parce que avec Alexandre, on avait une envie très forte, mais on est aussi toujours à l'écoute de nos producteurs, évidemment, et donc et eux avaient des envies aussi, donc on a essayé d'intégrer leurs idées. d'intégrer leurs envies de producteurs, puisque c'était leur premier film vraiment 100% esprit
frappeur. C'était quoi leurs envies spécifiquement? C'est intéressant, vu les questions que j'ai à vous poser ensuite, ça m'intéresse.
En fait, ça a beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup bougé. C'est-à-dire que Guillaume et Delphine, c'est parti d'un moment de est-ce qu'on rattache ça au vaudou? Est-ce que, tu vois, enfin, des croyances, tu vois, est-ce qu'on fait quelque chose d'encore plus fantastique, donc avec on va vers les fantômes, est-ce que on va, tu vois, est-ce qu'il y a d'autres apparitions fantastiques ou est-ce qu'on se concentre juste sur Candisha? Enfin, on a eu des versions très très vraiment très différentes, quoi. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros
parce qu'à chaque fois en fait que vous aviez un truc comme ça, vous partiez réécrire, quoi.
Parce que, comme je te dis, nous, tu vois, on travaille main dans la main avec nos producteurs, tu vois, on n'est pas du tout buté à dire, ah, mais c'est ça ou rien, surtout dans ce contexte-là, comme tu dis, d'un film fantastique, de créatures en France, où tu dis, putain, mais c'est inespéré, parce qu'en fait, ce qu'a raconté Alexandre, c'est juste, ça nous est jamais arrivé, en fait. Mm. C'est-à-dire que d'habitude, on se prend plutôt des murs et on nous dit, mais les gars, non, le public français ne veut pas ce genre de choses, pas si c'est français, etc. Donc là, c'était vraiment très atypique. Et donc, vu que c'était déjà une porte ouverte incroyable pour nous, on était encore plus ouverts que d'habitude. Tu vois, on s'est dit, ok, travaillons vraiment de concert. Et ce qui est amusant, c'est que ça a fait en fait une espèce de vraiment de. On est parti dans des extrêmes et pour finalement revenir à quelque chose qui était pas si éloigné des premières versions en fait qu'on avait écrites nous sans Guillaume et Delphine.
Mais alors, tu parles beaucoup du fantastique, mais en ce qui concerne les personnages spécifiquement, parce que Guillaume Lément, nous on l'a reçu plusieurs fois et tout, c'est quand même quelqu'un qui est très très attaché sur l'écriture des personnages, sur la question de l'empathie du spectateur, ce genre de d'enjeu. Et vous, en fait, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est arrivé sur le tapis quand il vous a demandé de travailler en fait sur votre script?
Ouais, bien sûr, parce qu'en fait la première version du scénar, nous, qu'on a fait lire à Guillaume, était donc il y avait toujours ce personnage principal féminin, donc qui est joué par Mathilde Lamus, mais elle était assez différente, c'est-à-dire qu'on s'engageait sur des terrains un peu touchy, c'est-à-dire qu'elle était convertie à l'islam, voilée, comme plein de jeunes gamines de son âge, mais elle le faisait par amour pour un mec et tout, donc on voulait développer un peu ça, mais et après, donc c'est quelque chose qu'on a mis de côté parce que aujourd'hui c'est un peu touchy, tu vois, de si tu fais pas un film vraiment social, de faire un vrai film fantastique. On a fait comprendre que les gars, non, si vous voulez vraiment faire un film social qui parle de sujets aussi touchy aujourd'hui que le voile par exemple, le mettez pas au milieu d'un film de créatures, alors que nous, ça nous posait dans l'absolu aucun problème, on trouvait ça même plutôt cool. Même si avec Julien, on n'a aucune velléité politique, tu vois, c'était vraiment parce que le personnage, justement, je trouve, se détachait par rapport aux...
Elle faisait ça par amour. Ça, c'est vachement intéressant.
Ouais.
Mais moi, j'ai une question.
Et pas parfois. Et après, donc, c'était le scénario était un peu plus complexe, en fait, au début. Et en fait, Guillaume, lui, s'en cachait pas. C'est-à-dire qu'il voulait ramener le film dans un giron beaucoup plus populaire, pop, et à l'américaine. C'est-à-dire que... revenir sur ce qui nous allait aussi, mais c'était une autre vision du film. Après, comme disait Julien, nous, c'est soit on s'accorde et on trouve des terrains d'entente avec nos producteurs, soit on reste chez nous et on attend et on travaille pas. Donc on préfère, évidemment, si on ne se fait pas violer, s'accorder avec un producteur quand le mec a une vision aussi précise et des demandes précises et qu'on dit bon, d'accord, c'est pas forcément ce qu'on voulait faire au début, mais on aime aussi cette direction, donc travaillons dans cette direction. Donc le film est devenu beaucoup plus léger que ce qui l'était au début. C'est-à-dire qu'au début, même dans la première version du script, ça commençait comme ça commence. Ils invoquaient Candisha, etc. Il y avait des morts, mais c'était même pas Candisha, en fait, à la fin, qui tuait les gens. C'était un autre fantôme. En fait, Candisha n'existait pas, vraiment. Ça restait une légende urbaine, mais leur invocation avait marché. Ils avaient invoqué le fantôme d'une jeune fille assassinée par ses frères dans la cité. Mais même ça, c'était aussi un peu touchy, parce que le rapport... aux fraternités, aux sororités, etc. dans les cités, le rapport des grands frères qui peuvent être... violent par rapport à...
On le sent, cette lourdeur, moi, je trouve, dans le film. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où vous êtes obligé de vous dédouaner en permanence.
Mais bien sûr.
Sur les a priori.
Cette envie de ce qui a plu, je pense, à Guillaume, c'était le contexte à la fois original de faire un film en cité, mais vraiment vraie cité. Mais sans tomber, tu vois, dans certains pièges inhérents à ce genre de contexte, où tu vois qu'ils peuvent très vite nous dépasser, en fait, même si. Nous, on n'avait pas du tout, en tout cas, l'intention de délivrer un message politique ou, enfin, tu vois, de faire un truc social. On faisait pas Les Misérables.
Mais dans les gens qui ont vu le film, il y a des gens qui vous l'ont reproché aussi. C'est-à-dire.
Oui, il y a des gens qui vous ont dit pourquoi est-ce que forcément le comédien au départ, le tout premier qui se fait tuer et donc qui va essayer d'attaquer l'héroïne principale, qui l'agresse. Vous avez choisi un comédien arabe, pourquoi vous n'avez pas pris un blanc pour le jouer? Est-ce que ça véhicule pas justement des clichés
question, en fait. Mais pour nous, c'est même pas un problème, tu vois ce que je veux dire, Clément?
Oui, mais c'est un cliché, ça véhicule un certain cliché.
Des blancs qui boivent, j'en connais autant que des rebeux.
En fait, ce que veut dire Clément, c'est que c'est les retours en fait sur Allociné ou les trucs comme ça.
Où,
en fait,
on lit pas les retours d'Allociné. Je peux dire, il y a un site. Non, mais on y va même pas, quoi.
Non, mais en plus, c'est franchement, que je l'avais jamais. Enfin, tu vois, j'avais jamais entendu. Donc,
c'est une critique que j'ai vu revenir quelques fois. Et effectivement, je me mets à la place d'une personne maghrébine et être dépeinte de cette manière-là, négative, c'est pas agréable et c'est vrai que.
Ouais, mais il y a aussi des rebeux qui sont des héros dans le film, tu vois. Donc, du coup.
Et puis il est pas si.
Et qui sont victimes et tout. Enfin, tu vois, c'est vachement.
Mais au contraire, je trouve que. Enfin, moi, j'ai plutôt senti l'inverse. C'est-à-dire que je sentais que vous étiez en train d'appuyer avec. Il y avait un petit néon non raciste, quoi. Vous faites des blagues sur. C'est pas parce que je suis black que je danse, c'est pas parce que je suis rebeux que je vole. Enfin, elles arrêtent pas de s'envoyer des tanches comme ça, les héroïnes. Donc là, vraiment, je pense. Moi, au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une volonté d'appuyer le fait que non, vous serez pas dans les clichés, dans les machins comme ça. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. C'est marrant, ce retour.
Mais et en plus, pour revenir à ce personnage, Clémence, on a essayé justement de pas en faire juste une racaille, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il boit de la 8-6, il est saoul quand il agresse son ancienne petite copine. On sent que c'est quelqu'un qui est agressif sous l'effet de l'alcool, mais avec cet acteur qui est un total débutant qu'on a rencontré quasiment dans la rue, qui était super, on a justement essayé de travailler l'empathie sur le très court temps qu'il avait à l'écran, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait sa merde et qu'il est, on le voit malheureux après, il sait qu'il a fait de la merde très vite, tu sais, donc on voulait pas non plus que ça soit juste un mec qui met des coups de pression et qui tape des meufs, mais un mec comme peuvent l'être plein de gens, c'est-à-dire il dérape à un moment parce qu'il est bourré et après il se rend compte qu'il a fait de la grosse merde. Il va payer le prix fort. Mais en tout cas, c'était notre volonté. Nous, c'était justement de ne pas tomber dans le cliché Kaira 100%. Mais tu vois, je trouve ça encore peut-être à la rigueur. Cette question me sidère. Alors, tu vois, vraiment, c'est pas toi, hein, mais qu'on puisse nous reprocher ça.
Tu sais comment il fait attention.
Non, mais bien sûr, Clémence. Non, ce que je veux dire, que des mecs disent le premier mort, c'est un rebeu. Je dis, mec, déjà, la majorité de la bande. Du film, c'est des rebeux et des blacks, donc il y a forcément des rebeux et des blacks qui vont mourir. Donc tu vois, et puis ça peut être perçu aussi à l'inverse, c'est-à-dire faire mourir en premier le blanc, ça fait à côté, les mecs ils sont calculés, parce qu'on va pas faire mourir le rebeu, etc.
Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on te le reprocherait. D'une manière ou d'une autre. Voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on en parle là sur le podcast aussi, parce que ces retours existent déjà en fait. C'est-à-dire, comme nous on arrive un peu après la sortie VOD, etc. C'est marrant de. Tu vois, et on se demandait si vous les aviez vus aussi quoi. Tu vois,
c'était non, ça. Moi personnellement, je regarde pas les retours d'internet, on fout.
On en a eu, tu vois, mais c'était pas sur ce thème là en fait. Moi j'ai vu des trucs assez malheureusement, tristement représentatif de l'époque, c'est-à-dire de genre on nous a accusé de réappropriation culturelle, ce genre de choses quoi. Donc mais ça, malheureusement, comme on l'entend beaucoup, tu vois, je me suis dit c'est dans l'air du temps et tu vois, et on peut plus se mettre des tresses si on n'est pas black et on peut plus parler de choses qu'on ne connaît pas.
On peut plus rien dire, c'est ce que tu veux dire en gros, Julien.
Exactement. Écoute. Non, mais je veux dire, tu vois, sans aller jusque-là, puisque ça n'a aucun sens de dire on peut plus rien dire.
Non, mais bien sûr.
Mais je trouve ça en fait un peu triste. C'est-à-dire que je me dis, tu vois, se faire attaquer là-dessus, se dire ah ouais, mais vous êtes pas rebeu, donc vous prenez une légende marocaine. Et
Ceci dit, les gars, la réappropriation culturelle sur Candyman, hein? Vous auriez pu faire attention, quoi.
C'est une question,
c'est une question. Non, blague à part, en fait, vous avez forcément pensé à Candyman. C'est intéressant parce que t'as parlé, en fait, d'où ça vient pour toi, ce que tu connais, en fait, de Candy Shad, comment t'as connu la légende, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu regardes le film,
Je veux dire, vous, d'ailleurs, vous citez ouvertement.
Bien sûr.
Vous dites, vous faites la scène où elle se regarde dans le miroir et elle dit le nom 5 fois. Mais du coup, automatiquement, c'est pour ça aussi que je vous posais la question sur comment, en fait, c'est ce que les producteurs ou les financiers, tout simplement, peuvent percevoir ce type de film. Est-ce que vous leur dites, c'est un peu notre version de Candyman, par exemple, tu vois.
On le vendait un peu comme ça, ouais. Tu vois, on le résumait, alors attention, hein, faut s'accrocher, on le résumait entre un crossover, entre Candyman et Bande de filles, tu vois, de Céline Sciamma. Donc, tu vois, qui a un très très bon film de cité, hein, au passage, hein. Moi, j'aime beaucoup ce film, mais... Donc voilà, on l'a vendu un peu comme
D'accord,
ça.
Okay.
Et évidemment, Candyman, Candy Shah, déjà rien que le nom, t'es battu. Mais et on a été en pleine conscience, tu vois, de l'héritage de Candyman. Ce qui nous a juste fait chier, c'est putain, quand on partait en production, on voyait juste que le remake était annoncé. Fait, non, mais c'est incroyable.
Tu vois, il n'y a pas eu de film comme ça depuis 20 ans.
Non, mais les gars, c'est quand on arrive qu'ils font un remake. Ouais.
Pourquoi des meufs, justement, alors?
Parce qu'on est des mecs.
Moi j'ai vu un peu de The Craft aussi, hein, le côté
Moi j'aime bien The Craft.
J'aime bien The
remake,
Craft aussi.
Ouais, mais toi ça m'étonne pas.
Moi j'ai pas vu le remake. Moi The Craft, c'est vrai que c'est un peu notre enfance, mais non, c'est nul The Craft. Enfin, je sais pas, on a jamais évoqué The Craft.
Pas revu depuis l'époque. Non, c'est vrai qu'on a jamais parlé.
Non, mais c'est pour l'invocation.
Oui, entre copines.
Ouais. Et puis de toute façon, Candy Shah ne tue que des hommes. C'est important aussi, mine de rien, parce que généralement, c'est plutôt rare les tueurs dans les slashers, parce que nous on considère que le film est un vrai slasher, ne tue que les hommes ou que les femmes, bref. Et pourquoi des filles? Parce que justement, on voulait ce côté bande de filles, justement pour essayer d'aller à contre-courant aussi des films de cité où c'est souvent des bandes de mecs, un peu comme La Haine, quand même Ma Cité va craquer, même comme Les Misérables récemment, ou Shaitan. Les filles sont un peu minoritaires malgré les labecties, mais nous on voulait justement faire une bande de filles, en fait. On trouvait ça super. Une bande de graffeuses qui défoncent des trains, une bande de petites meufs qui vivent leur vie dans la cité. On trouvait ça super cool. Puis avec Julien, on a tendance aussi à préférer filmer des héroïnes que des héros. Dans nos films, c'est plutôt toujours des filles qu'on met en avant, mais donc on. Ça nous paraissait évident, en tout cas, tu vois. On s'est jamais posé la question de se dire, attends, on le ferait pas avec 3 mecs plutôt, non.
Et alors juste, en fait, pour terminer un peu sur la fabrication du film, c'est en termes de... Enfin, c'est un budget de combien, ça, en fait, un truc comme Candy Shah?
2,6.
Parce qu'il y a personne de connu dedans. On disait vraiment, en fait, sur le...
C'est un French Fryer, hein, c'est le budget de la nuée, de tous les French Fryer.
Mais la nuée, ça semble presque... En fait, si tu veux, dans le contexte du cinéma français, j'entends de genre, quoi, c'est presque... Plus, enfin, t'as l'impression que c'est normal en fait qu'un film comme ça se produise, parce que fondamentalement c'est un film de paysan avec, de paysan vu de loin, mais je veux dire avec 3 trucs fantastiques, alors que là en fait les money shots c'est Candy Shah, quoi. Ce que je veux dire c'est que c'est la créature, c'est les scènes de meurtre.
Bah ouais.
Donc souvent on a tendance à penser que les budgets sont pas forcément, c'est difficile à vendre, en fait, moi, je pense, un film comme ça. D'ailleurs, l'idée, c'était quand même que ça sorte en salle, en fait, à la base, et puis c'était une vraie sortie, en fait.
Le truc, c'est que on a joué de malchance, évidemment, comme tout le monde, avec la pandémie, quand on a eu le financement, tout le monde y croyait très fort. C'est-à-dire que ce soit Canal+, que ce soit SND, tout le monde était vraiment derrière le film, en se disant il y a vraiment quelque chose à faire en salle, et ramener un public aussi de jeunes, d'ados et tout dans les salles pour voir un film français. C'était le défi, c'était de se dire faisons un truc vraiment très
étonnant, parce qu'il y a pas de précédent, en fait, je trouve, sur ce type de film. Ce que je veux dire, c'est-à-dire quand t'as Grave qui sort, Grave, c'est encore une fois, c'est pas un film fantastique.
Non,
quoi.
Non, bien sûr.
C'est surtout pas un film à destination des mômes de cité, quoi.
Non,
c'est pas
exactement.
Du tout ça. C'est à destination des universitaires, voilà. Non, mais c'est clair. Vrai. Moi, je trouve, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas du tout.
Non, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que nous, il était entre guillemets marketé comme ça. C'est-à-dire que, et nous, ça nous allait très bien parce qu'on était nous aussi persuadés, on adorait cette histoire. Et comme c'est une histoire de jeunes, tu vois, on s'est dit il y a un chouette défi et c'est super, quoi, allons-y. Et le problème, c'est que la pandémie est arrivée, il y a eu d'un coup un espèce de de désamour, hein, tu vois, vis-à-vis du film, de dire, bah, tu vois, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, nos distributeurs ont dit non, mais on prend plus le risque, tu vois, plus rien sort en salle, de toute façon, personne n'ira. Enfin, tu vois, il y a eu une espèce de soufflé retombé très très vite, quoi. Et donc du coup, le film a eu plusieurs tentative d'existence, quoi. Il a été Netflix voulait l'acheter, ils étaient très intéressés, ils avaient adoré le film et ils le voulaient, mais ils pouvaient pas à ce moment-là pour des histoires de droits de coproduction, bref, ils pouvaient pas, ils étaient en deal avec d'autres sociétés, ils pouvaient pas l'acheter sur le moment, et donc SND voulait le sortir rapidement, donc du coup la solution de la VOD est arrivée en fait naturellement, quoi, de se dire ok, on fait une sortie VOD.
Et vous avez votre mot à dire là-dessus?
Non. Oui, enfin, on peut toujours dire des mots. Oui. Mais est-ce qu'on nous écoute? Ouais. Non, non, non.
C'est plus notre, on c'est peut, plus
hein.
notre sort.
Non, non, on sait entendre, hein, toujours. Tu vois, nous, avec Julien, on dit toujours ce qu'on pense, poliment, gentiment. Mais non, non, là, comme dit Juju, la vraie porte de sortie aurait été Netflix. Mais en fait, oui, la pandémie nous a torpillés, parce qu'il faut savoir que quand on tournait The Deep House, on finissait la post-prod en parallèle de Candisha. Donc il y a même une journée, par exemple, de tournage où moi j'étais sur le tournage de The Deep House et Julien repartait à Paris étalonné. Donc tu vois, tellement on pouvait à un moment. Et le soir, généralement sur Deep House, on tournait le soir. Notre compositeur était belge. Sur Candisha, on allait bosser chez lui. Après notre journée de tournage sur Deep House, donc on avait des journées de bâtard. Et en fait, quand le premier confinement est arrivé, il nous restait un jour de mixage et d'étalonnage sur Candisha. Et le film devait sortir dans la foulée, en salle. Donc évidemment, tout a été torpillé. Après, le film a été reprogrammé en novembre 2020, à l'arrivée du deuxième confinement. Et c'est là, effectivement, comme disait Jules, que le M6, ça fait la SND, a dit « bon, ils avaient déjà bloqué Kaamelott sans date. » Et donc nous, évidemment, on n'était pas la tête de gondole, hein, de SND. On était un petit film d'horreur qui kiffait, hein, tu vois. Ils ont tout bloqué. Et donc, on s'est retrouvés après, donc, voilà, expédié en VOD. Mais bon, shit happens. Après, le film existe. Il sort et sera vu par ceux qui veulent le voir. Pour nous,
c'est quoi les retours que vous avez eus en premier lieu sur justement la sortie de VOD? Parce que de l'extérieur, balancer ça en été, en VOD, ça fait un peu...
En fait, ce qui est vraiment frustrant, c'est que nous, ce qu'on voulait éviter, c'était la VOD. Parce qu'un film qui sort en VOD, à peu près 1 minute 30 après, il est sur le net, tu vois, en téléchargement libre. Et là, c'était encore pire que tout. C'est-à-dire que 10 minutes après, il était sur YouTube en intégralité, tu vois. Donc là, on a fait, putain, mais sur YouTube,
et il a
quoi.
Fait 1 milliard de
vues. Non, mais tu vois, et tu dis, mais c'est typiquement un film qui s'adresse à des gens qui téléchargent aussi, tu vois, qui sont les jeunes, qui ont pas, tu vois, et donc, et tu te dis, mais, enfin, moi, je reste intimement convaincu, et j'en reparlais il y a pas très longtemps avec un distributeur, tu vois, que c'était un film qui pouvait marcher en salle, qui pouvait trouver son public, parce que c'est une marque qui existe, qui est forte et qui existe dans les quartiers, et que tout le monde sait ce que c'est, tu vois, Candisha. Donc, du coup, moi, ça reste, tu vois, une frustration, parce que, effectivement, comme disait Alexandre, le meilleur plan B, ça aurait été Netflix. Et parce que là, en fait, c'était le pire. C'est-à-dire que là, il a été téléchargé à mort, mais vraiment à mort. Et du coup, je sais pas, j'ai pas les chiffres VOD, mais qui achète vraiment de la VOD?
Tu vois, c'est d'en avoir.
Moi. Ce public-là, en tout cas, non, c'est un public familial, je pense, et tout.
Voilà,
c'est clair.
Exactement.
Ça semble évident, bien sûr.
Et du coup, voilà, et le fait qu'ils sortent.
Mais du coup, vous avez zéro retour là-dessus encore, quoi. C'est-à-dire, le distributeur vous a rien de.
Ah bah nous, faut qu'on le demande. Enfin, faut qu'on fasse remonter. Enfin, sinon, ils vont pas nous.
Je sais pas, on sait jamais. C'est...
Alors, pour revenir au contenu du film et au personnage d'Aïcha Candisha. On raconte qu'elle est très belle, qu'elle est extrêmement belle. C'est quelque chose qui revient de manière récurrente dès qu'on se renseigne un petit peu sur elle. Et alors, j'ai trouvé ça étonnant parce que vous ne montrez pas son visage. Elle est cachée derrière un voile. On voit juste ses yeux. Et pourquoi ce parti pris?
On la voit après. Elle se dévoile plus ou moins.
Elle est moins belle.
Dans le hammam. C'était juste en termes de production design, en fait, de character design. Tu vois, on a évidemment... beaucoup travaillé ses costumes. Et justement, alors le voile, c'était aussi un peu touchy, évidemment. On y retourne à cette première constatation qui est quelque chose de religieux. Donc, tu peux pas non plus faire un peu ce que tu veux. Mais nous, on y tenait.
Vous l'avez rendu translucide, en fait.
Voilà,
ça a atténué le truc,
exactement.
Quoi.
Exactement, Julien. C'est-à-dire que, tu vois, au lieu de le rendre opaque, façon burqa intégrale, parce qu'au début, c'était ça. Hein.
Et nous, on la voulait vraiment en mode extrême.
Vous cherchiez un peu la merde.
On cherchait un peu la merde, ouais. Mais en même temps, tu vois, c'était. Je pense que c'est une figure très forte, symboliquement. Ouais, tu vois, non, c'est, mais... ça fait très peur quand même, tu vois, les femmes en burqa intégrale, tu vois, avec les yeux. C'est quand même une image de fantastique presque. Enfin, pour nous.
Ouais, c'était un des premiers trucs aussi, nous, qui nous séduisait. Hein. C'est qu'on se disait, putain, mais en fait, t'imagines au milieu d'autres femmes qui portent un voile intégral. Bon, bah voilà, tu vois, tu fais pas forcément attention, mais en fait, d'un coup, tu vois des sabots de bouc qui dépassent, tu fais, putain, mais il y a quoi en dessous, quoi, c'est quoi, tu vois, et donc c'était, parce que du coup, elle a des représentations comme ça, tu vois, et donc ça, c'était un truc qui nous intéressait aussi, et c'est vrai qu'on est parti plus vers un voile genre Reine de Saba.
Pour la version jolie, mais c'est vrai que au début du film, quand on la voit dans le couloir, par exemple, elle est en burqa intégrale noire. Là, on la voulait vraiment fantôme.
Mais c'est de loin,
De loin, et voilà. Mais c'était vraiment pour lui donner un aspect un peu encore plus mystérieux, parce que nous on trouve ça super joli en fait, tu vois, donc on s'est fait chier à poser chaque truc, tu vois, vraiment c'était du vrai caractère design pour que c'est quelque chose un peu cinématographique et pas juste avoir une belle fille, tu vois, lambda. On voulait qu'elle garde une part de mystère un peu, et surtout que notre actrice Mariam Seroli avait des yeux vraiment magnifiques, donc qu'on voulait vraiment mettre en exergue, tu vois, avec ce voile qui est magnifique en fait, ses yeux, même si après on les a truqués, mais sur certains plans, mais c'était une volonté vraiment purement artistique en tout cas.
Alors puisqu'on est sur la créature, hein, j'ai quand même quelques questions sur. Alors vous le dites, hein, techniquement dans le scénar, hein, qu'elle change de forme, enfin qu'elle peut prendre plusieurs formes et tout, mais en fait vous en jouez pas trop, je trouve, en fait, de ça. C'est-à-dire qu'il y a pas de règle de comment elle apparaît. C'est-à-dire pour moi, je suis étonné, si tu veux, que. Bah, d'un seul coup c'est ce géant, d'un seul coup c'est tu vois ce voile, d'un seul et en gros si tu veux pourquoi, comment, tu vois, et juste si tu veux, alors, et j'ai même pas l'impression qu'il y a... enfin, si, c'est-à-dire que la forme géante elle apparaît plus vers la fin, on va dire,
ouais,
mais
ouais, il y a une vraie évolution,
mais disons que en fait c'est pas un truc qui on comprend, enfin j'ai envie de dire que c'est en fait le film est clairement fantastique et ça c'est plutôt cool, c'est ce que j'aime dans le film, quoi, mais en fait les règles du fantastique je les trouve assez light en fait, si tu veux, et je vous ai trouvé assez comment dire,
en fait le truc qu'on veut dire diffus, je pense, quoi. Qu'on est tous les deux d'accord là-dessus avec Steph, et c'est vraiment un des griefs en fait sur lesquels on voulait vous entendre, c'est que pour que ce soit ludique dans n'importe quel jeu, il faut qu'on comprenne les règles pour pouvoir jouer avec vous. Or là, c'est vrai que les règles ne nous sont pas apparues clairement. Et c'est vrai qu'en particulier sur le traitement en fait de la créature, où nous, ni l'un ni l'autre, on a trop compris. Et j'ajouterai en corollaire là-dessus, qui vous parliez de cette scène justement dans le couloir, que j'ai trouvé très bizarre en fait, très curieuse, parce que alors c'était peut-être votre but, et j'aurais vous entendre justement là-dessus. Mais moi, ça m'a complètement dédramatisé en fait l'apparition de la créature. C'est-à-dire que je l'ai retrouvée tout à coup dans une espèce de truc très factuel, pas de, il y a pas de théâtralisation en fait au niveau de son, autour de son apparition, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu,
dans le couloir.
Je l'ai reçu, oui, dans la séquence du couloir et tout, c'est juste presque une quidam en fait qui est là et qui est effectivement peut avoir un truc un peu plus inquiétant parce que il y a des réminiscences peut-être d'ectoplasmes, enfin de fantômes comme ça, qui peuvent revenir à l'esprit. Mais moi, ça m'a un peu cassé mon trip en fait. Et donc voilà, c'est vrai que ça nous intéressait du coup de vous entendre travail autour du monstre, quoi.
Pour cette première apparition, t'as entièrement raison, Julien, dans le sens où nous, on voulait pas justement l'iconiser direct.
Et pourquoi ?
Bah parce que justement, on voulait jouer et sur cette ambiguïté de est-ce que c'est juste comme tu dis une quidam. Parce que justement, on citait des gens voilés intégrales, du moins, t'en croises beaucoup. Et donc, on voulait jouer sur cette ambiguïté, du moins pour cette scène. C'est-à-dire que, allez, au scénario, c'était écrit vraiment comme ça. Et bon, après, on a essayé de le filmer comme ça aussi. C'est-à-dire que, elle croit cette femme. Alors, si c'était vraiment un monstre, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se barre en courant. Alors que là, tu vois, elle lui dit quand même salam alaikum. Elle dit, tu vois, elle essaye quand même. Il y a un doute. On voulait vraiment qu'il y ait un doute, et pour le spectateur, et pour le personnage principal, de se dire, attends. Parce qu'elle sait que cette malédiction est plus ou moins en route. Est-ce que c'est parti, c'est la fameuse Candisha, ou est-ce que c'est juste une meuf voilée dans le couloir? Donc on voulait jouer sur cette ambiguïté. C'est pour ça qu'on l'a finalement on n'a jamais le contre-champ vraiment, on est près d'elle, tu vois.
Et pourquoi jouer sur l'ambiguïté alors à ce moment-là? Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait dramatiquement en fait?
Écoute, ce que nous a apporté, je pense que c'est un peu le début du film aussi. Nous, c'était le pour pas que le personnage de Mathilde soit tout de suite en mode, il y a une créature fantastique, et puis du coup, ce que ça induit, c'est-à-dire qu'après, tes personnages ne peuvent pas avoir les mêmes réactions, tu vois, si tu es mis tout de suite face au fantastique, ou alors si le fantastique s'immisce au fur et à mesure avec des vraies incertitudes, parce que
au feu, tu vois, elle sait pas trop ce qu'elle a vu, elle voit cette meuf chelou, enfin c'est apparition un peu bizarre, puis là elle voit cette femme en burqa intégrale qui est immobile au bout du couloir, ce qui pourrait être une vision totalement réaliste comme une vision totalement fantastique. Donc on voulait vraiment jouer juste sur cette ambiguïté, sur la terreur que peut dégager aussi, enfin pas la terreur, mais tu vois, le côté très graphique.
Attention à ce que tu dis.
Non, mais tu vois, le côté un peu flippant fantôme que peuvent avoir les femmes en burqa, et c'était joué sur cette ambiguïté à ce moment-là. Et pour les règles, alors on a toujours le même problème avec Julien, c'est-à-dire que nous, les règles, elles sont super claires pour nous quand on écrit un scénar. Mais après, nous, on pense que les gens sont... On n'aime pas après les donner clés en main aux gens. Là, on l'a un peu fait par rapport à la lecture du livre, quand il explique vraiment, quand elle consulte des sites internet et quand tu vois dessiner qu'elle a plusieurs phases. Et en fait, pour nous, l'idée, c'était plus elle tue, plus elle grossit, elle grandit en fait. Donc elle commence petite, voilée. Après deux, trois meurtres, elle commence un peu, tu vois, à devenir belle, jolie, etc. Et à la fin, elle est carrément monstrueuse, c'est sa vraie forme. Et donc c'est ça la règle du jeu pour nous, c'est une sorte de graduation dans l'évolution du monstre, mais qui était très clair pour nous, hein, et qu'ils évoquent un peu succinctement, mais surtout par dessin, c'est dans les pages du livre en fait où tu le vois, mais on voulait pas en tout cas le dire vraiment factuellement, parce que déjà on trouvait qu'on en disait trop. Et nous, on nous le reproche souvent de ne pas en dire assez. Par exemple, Livide, personne ne comprenait nos règles du vampirisme, qui pour nous sont cristal clair. Ouais. C'est-à-dire que, je m'en souviens, un jour, il y a 10 ans, Steph, à l'époque du film,
on en avait
pas, les avoir expliqués. Mais pour nous, on les établit en fait, ces règles.
Même si c'est pour les
mais après,
qui,
on ne veut pas les délivrer parce qu'on considère que les gens sont assez intelligents, ont leur propre sensibilité pour...
C'est pas une question forcément d'intelligence,
enfin,
de sensibilité,
mais
pour moi
c'est
plus une question
en fait,
de... On en revient sur l'idée en fait de ce que tu t'avançais tout à l'heure, de la question de la place du spectateur en fait dans un film d'horreur, c'est-à-dire que en gros, quand tu nous expliques au début que en fait si tu joues sur l'ambiguïté de l'apparition de Candisha, la première apparition de Candisha, c'est pour que c'est lié au personnage principal, ça se tient, je comprends ce que tu veux dire, mais par contre le spectateur, il le sait déjà en fait qu'il est dans un film fantastique à ce moment-là, puisque elle a été invoquée, il y a déjà eu un mort. Et du coup, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que en fait, qu'il y a un détachement entre ce que le film raconte et ce que le spectateur sait ou ne sait pas déjà. Et c'est là, en fait, à mon avis, qu'il y a un décalage qui est problématique, en fait, moins dans Candisha, je trouve, parce que à la limite, moi, j'ai plus des manquements sur Candisha, des manquements de séquences, des manquements. Il y a des moments où je me dis, mais tu vois, par exemple, quand t'as Candisha qui lui apparaît, qui lui dit chouf, tu vois, regarde, et qu'en fait, elle regarde, mais elle regarde pas, parce que vous le montrez pas, vous la montrez pas en train de regarder. C'est un problème pour moi parce que, en fait, fondamentalement, je devrais voir ce que elle ressent quand elle voit Candisha tuer. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'en fait, elle le dit à la fin. C'est-à-dire que la scène, elle est amorcée. C'est une scène classique. Et d'un seul coup, à la fin, elle fait « Je l'ai vu tuer ». Et tu fais « Mais ouais, non, mais montrez-le, vous êtes au cinéma, quoi. C'est un truc, c'est un rapport de regard, tu vois. » Et le problème, en fait, là-dedans, c'est que, du coup... Alors moi je trouve que c'est par exemple honnêtement c'est un de vos films les plus soignés, si tu veux, visuellement, etc.
Ça faut qu'on en parle, absolument.
C'est assez chouette, c'est assez cool et tout, tu vois. Mais du coup il y a des manquements de mise en scène, tu vois, dans ces trucs là par exemple, c'est pareil. Tu vois, enfin j'ai compris parce que c'est peut-être la deuxième ou troisième scène de mort, je sais plus dans le film, ou quatrième, je sais plus, mais dans la maternité. Mais tu vois, d'un seul coup tu vois pas du tout la scène. Tu vois juste le mec qui est disloqué à la fin. Alors qu'en fait, c'est encore une scène où t'as un vieux qui apparaît. Donc, si j'ai bien compris, elle voit à travers le vieux, mais je suis pas tout à fait sûr, tu vois.
Non, c'est le vieux qui la voit, elle.
Non, mais le vieux la voit, elle. Mais est-ce qu'elle voit à travers les yeux du vieux ? Est-ce qu'elle voit à travers... Mais comme tout ça n'est pas clair et pas clairement expliqué, ce qui est bizarre, c'est que du coup, tu vois pas la séquence en soi. Tu vois juste la finalité, en fait, le mec qui est par terre au sol et tout.
Oui, mais t'entends tous les bruits. Enfin, moi, ça m'a pas choqué parce qu'on entend suffisamment les bruits des os du corps qui se disloquent pour savoir ce qui se passe.
Il y a quelque chose peut-être pour étayer là-dessus sur Steph, mais justement parce que je pense que ça fait partie des mêmes choses. C'est pas que je veux pas vous laisser parler, au contraire, il faut. Mais parce que ça fait partie de la même chose. Mais ce qui fonctionne avec ces règles en fait autour de Candisha, moi, il y a un truc qui m'a manqué du coup, et je pense que ça va de même avec Steph, c'est que c'est pareil. Je n'ai pas compris les mises à mort. C'est-à-dire qu'un coup, elle en écrase un avec ses sabots, un coup, elle en défenestre un dans une super scène. Alors j'adore ce plan là avec les trucs qui arrivent et tout, avec le multipass, avec le black là qui tombe et tout, ça marche super bien et tout, mais du coup j'ai pas compris ça. Pour vous donner un exemple hyper trivial, dans les Freddy, c'est hyper fun les mises à mort parce que tu sais que Freddy va utiliser les phobies ou les obsessions de ses victimes pour jouer avec et les mettre à mort comme ça en fait les gamins. Et c'est ça en fait qui te rend le truc fun, c'est que tu te dis ah elle a peur des cafards, comment il va la flinguer quoi. Et moi dans Candy Shah, ce qui m'a beaucoup manqué, c'est que je me suis dit mais c'est quoi le modus operandi en fait quand elle les tue? Elle en change à chaque fois, en fait. Il y a un truc autour de l'amour, manifestement, au niveau du choix, en fait, de ses victimes. Mais en quoi, en fait, ça se manifeste, en fait, dans les mises à mort? C'est le truc qu'on attend tous, nous, les mises à mort, avec le monstre, évidemment, dans un film comme ça. Donc, je vais vous entendre aussi parler là-dessus, quoi, du coup. Je suis désolé, mais c'est pour ça que vous êtes là. C'est super intéressant, alors, du coup, non de,
je sais pas, oui, en fait, c'est très intéressant.
Bon, alors,
on va y aller.
Non, en fait, on est dans un genre qui est très codifié et on s'adresse à un public qui aime ça et qui regarde ça. Et nous, on a toujours eu à cœur, depuis toujours, d'essayer de surprendre ce public qui est notre public et c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, on est les premiers spectateurs de nos films. Et donc on est en tant que fan de films d'horreur, tu vois, ce qu'on aime le plus au monde, et c'est de se faire prendre par la main et d'être embarqué dans une histoire sans avoir grillé quoi que ce soit, et de se dire ah c'est sûr ça va aller dans cette direction, et putain on m'emmène totalement ailleurs. Donc ça participe de ça, c'est-à-dire que nous on essaye toujours de se dire ok les gens ils vont attendre quoi, ils vont se dire non mais attends là ok lui il va se faire tuer de telle manière et tout. C'est pour ça qu'on a changé aussi toutes les mises à mort, c'est qu'on s'est dit non mais faut pas qu'ils sachent, qu'ils se disent non mais en fait elle tue toujours de la même manière parce qu'elle a un couteau je sais pas quoi et qu'elle plante les gens et tout. Non, on s'est dit il faut qu'à chaque fois ce soit pour le spectateur une curiosité de se dire ah putain elle va frapper mais comment. Que ce soit pas lié au personnage, je veux dire, tu vois, pour nous, c'est pas un problème fondamental. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la mise à mort et comment on va la montrer. Et en l'occurrence, sur ce film-là, on s'est dit, une fois de plus, essayons de faire un contre-pied pour nos spectateurs, c'est-à-dire qu'ils vont s'attendre, parce que nous, on a quand même cette image de montrer les choses, de se dire, ouais, c'est des mecs qui aiment bien le gore, qui aiment bien montrer frontalement les morts, etc. Et en fait, on s'est dit, ok, attaquons par du hors-champ. Et faisons un truc, tu vois, qui va peut-être frustrer, de se dire « Ah putain, en fait, on voit pas les morts. » Et puis d'un coup, d'en donner un petit peu, mais pas trop. Et de, tu vois, de couper au moment, ou alors après de donner juste, comme disait Clémence, de partir juste sur le son. Et on va regarder la personne qui assiste, etc. Pour lâcher les chevaux quand on a vraiment envie de les lâcher, c'est-à-dire sur la mort d'un personnage en particulier. Tu vois,
quand tu parles de qui se fait éclater.
Voilà, ouais. Et donc on s'est.
Et très gore, c'est plutôt réussi.
Voilà,
d'ailleurs,
et on s'est
truc,
dit,
ça,
putain,
c'est vrai que
tu vois, ça va participer aussi de cette envie du spectateur de voir le film, de faire, oh putain, ah d'accord. Tu vois, c'est pas le film d'horreur où dès la scène d'intro, tu vas avoir un truc ultra vénère, ultra graphique, où tu dis, putain, va falloir tenir une heure et demie après le spectateur qui va s'attendre. Il dit, ok, si on démarre comme ça, ça va aller crescendo, quoi. Et donc du coup nous c'était ça, on s'est dit travaillons la gestion de l'attente et de la frustration du spectateur comme ça, et de se dire qu'il ne sache jamais si ça va être graphique ou non, si ça va être, tu vois, si on va voir Candy Shah.
Mais ça l'est toujours à la fin, hein. Mais le mec il se fait disloquer au sol, c'est graphique, ça reste graphique,
bien
mais
sûr.
C'est juste que tu le vois pas, par contre tu vois le résultat.
Ah bah, tu rigoles ou quoi?
Non, mais tu vois le résultat.
Ah,
tu
parles
pas
de la fin là dans le
non,
dans
non,
le
non je te parle du mec dans la maternité.
Ah d'accord. Ah, oui bah voilà, mais parce que là on est encore à un moment du film, tu vois, où on veut.
Mais moi je te parle pas de graduation. Je te parle vraiment de cadre, en fait. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on aime aussi dans le film de genre tous, c'est que le genre, c'est quoi, en fait? C'est que t'as toujours les mêmes cadres. T'as toujours le même truc. Et tu sais que tu vas dans ce cadre-là. Et que le mec, qui est talentueux, à l'intérieur de ce cadre, et en restant dans ce cadre, qui est finalement relativement restrictif, hein, c'est vrai, il arrive à surprendre. C'est ça ce que je dis, en fait, dans le truc des règles. C'est ça qui est bien dans un bon jeu de plateau, c'est que tu connais les règles, il y a un bon joueur qui est en face de toi, il va te sortir un effet de manche, où tout en respectant les règles, il est ça. Moi, ce qui m'a un peu manqué dans Candy Shah, aussi bien dans les apparitions du monstre que dans ses manifestations et dans ses actions, c'est cette absence de règles, justement. Ou en tout cas, moi, je les ai pas entendues, je les ai pas bien clairement comprises. Et il me semble, en tant que spectateur de films de genre, que je n'ai pas à intellectualiser ça pour essayer de les comprendre. Il me semble que j'ai besoin d'avoir au contraire un certain lâcher prise. Enfin, moi, c'est comme ça que je me mets. Je ne suis pas en train de regarder Graf, justement. Je dis Graf parce que je sais qu'il aime bien Alex.
J'adore.
Ouais. Bah écoute, ouais, enfin moi je suis
bah Alex, on t'a pas entendu du coup dessus.
Mais c'est intéressant parce que en même temps, tu vois, Candy Shy, il y avait à la fois des choses très précises sur le personnage liées à la légende et aussi un flou incroyable autour du personnage, c'est-à-dire c'est jamais dit par exemple la légende comment elle tue les hommes, tu vois, donc c'était tout était à faire.
Super.
Donc tu vois, la légende l'aurait raconté, on s'y serait sûrement tenu. Mais c'est jamais raconté, c'est jamais dit, bah voilà. Donc, comme disait Julien, nous, on voulait éviter le côté, bah, elle a un couteau et pff, elle égorge les mecs, ou alors met des petits coups péteux dans le dos. Non, nous, on voulait vraiment faire.
Le lapin qui se fait tuer, là, par contre, il n'y a pas de problème. Bravo, les gars. Alors, mais sur moi, tout ce qu'on vous reproche sur Internet, d'accord, mais le lapin, tu vois.
Ça, on a le reproché sur Internet aussi.
Ah ouais, ah merde. Bah,
mais c'est horrible, les gars, voilà. C'est horrible. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voulait faire, voilà, c'était avant tout. Un film d'horreur graphique parce qu'on aime les effets spéciaux, on voulait faire des effets spéciaux de plateau, tu vois, on voulait s'éclater en fer, tu vois, c'était pour ça donc que en fait tout le modus operandi de Candy Shy était très vague, très flou, voire inexistant dans les textes. Donc c'était à nous justement c'est notre touch à nous, notre patte à nous d'avoir ramené ce côté, on veut que chaque mort soit différente, que en fonction aussi de nos moyens. Par exemple, la mort de Chandor Funtank dont tu parles à la maternité, il y a aussi un côté très pragmatique, c'est-à-dire qu'on a tourné le film en 25 jours,
voilà, donc,
ce qui est très peu. Mais vraiment, à un moment, il a fallu faire des choix.
Mais ça marche pas bien parce que c'est un effet optique, non? Quand il est.
Il y a des fausses jambes, en fait.
C'est ça, c'est juste des fausses jambes.
Des fausses jambes posées derrière.
Ça marche très bien. Moi, je pensais même que c'était une espèce de photomontage.
Non.
D'accord.
Alors, faut savoir qu'on a, à part 2-3 effets numériques, évidemment, très identifiables, on a tout fait en live sur le plateau. C'était le but. Tu vois, même.
Ça se sent justement dans la mise à mort dont on parle dans le bain, tu vois, là.
Même les.
Vas-y, pardon.
Juste pour finir là-dessus, tu vois, même les déformations d'image pendant l'exorcisme, c'est pas la post-prod, on a monté un mesmerizer sous l'objectif, c'est une sorte de miroir qui te permet de déformer l'image pendant la prise de vue, mais on faisait des images de dingue parce qu'on avait un chef-op qui était vraiment là-dessus à fond avec nous pour tourner des trucs, tu vois, on a des trucs qu'on n'a pas montés mais qu'on a tourné à deux images, des choses comme ça. On a vraiment on s'est fait plaisir sur ce film, on voulait se faire plaisir, et donc c'est pour ça aussi que sur les mises à mort, même si effectivement chacune est différente, tu te dis mais attends, c'est Jason, tu n'importe comment à chaque fois, ou enfin tu vois, il y a des tueurs un peu comme ça très prolifiques et très et nous Jason, dit, c'est ce qu'on voulait, enfin bon, Jason c'est peut-être pas le bon exemple
règle,
Julien,
mais
c'est une autre règle, mais en tout cas là tout était un peu à faire et nous on voulait vraiment éviter le côté soft, quoi, tu vois, nous on voulait vraiment faire un film vraiment gore avec des mises à mort qui nous éclatent, comme ce mec défenestré, comme ce papa déchiré en deux.
Mec, voilà. Défenestré d'ailleurs, où tu parlais de double passe, mais
il y a
non,
pas de double passe
en vrai.
Ah bon,
aucune double passe, c'est un mannequin, bien sûr, mais
c'est un mannequin et tout, d'accord, ok. Je pensais que c'était un
effet optique. On s'est fait chier aussi. et encore tu vois, on avait fait des
mais
plans,
ça marche super bien, je disais pas ça du tout pour faire le malin,
non,
le truc, je pensais vraiment que vous aviez
tourné comme ça,
mais
pas de double passe.
Mais il faut dire aux gens, parce que là on est en train d'allumer un peu le film, on va ou 10 minutes et tout, et après on va dire tout ce qui est sûr. Il y a plein de trucs de bien, mais ça fait partie des trucs qui sont hyper payants. C'est-à-dire
mais
que
c'était
la
tannée,
scène,
quoi.
Encore une fois, du bain turc, je dis aux auditeurs, quoi, moi ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu des effets de maquillage de Goras. En plus, il n'y a pas trop de sang, c'est ça qui marche vraiment bien, je trouve, sur cette scène. Et c'est douloureux, enfin, ça marche vraiment bien, je trouve.
Ah, Atelier 69, Olivier Afonso.
Mais en tout cas, faut pas l'oublier, c'est vrai que le spectateur, dans l'absolu, il s'en fout de savoir combien coûte un film, en combien de temps il a été tourné, mais là, on est entre cinéphiles qui, on sait comment les films se font, et 25 jours de tournage, c'est vraiment
chaud,
très très
pour
peu,
des
quoi.
Trucs comme ça.
Surtout qu'à un moment, on tournait même à trois équipes, c'est-à-dire moi j'avais une équipe, Julien avait une équipe, on avait un premier assistant qui on avait énormément confiance, à qui on a fourni une caméra pour lui faire faire des plans, et avec Julien, on faisait des triples journées, c'est-à-dire que il y avait deux équipes, en fait. L'équipe A faisait 8h-19h. L'équipe B faisait 13h-1h. Par exemple, Julien commençait... on ne se séparait jamais, en fait. C'était on commençait avec l'équipe A jusqu'au début de l'équipe B. Après, il y en a un qui partait sur l'équipe B. L'autre finissait l'équipe A. Et après, l'autre qui avait fini l'équipe A rejoignait l'équipe B. Donc, en fait, on faisait du 8h-1h du mat en tournage. Mais on était obligé, tu vois, pour tout rentrer. Parce que 25 jours, avec tout ce qu'on a mis à l'écran... Donc, où tout était fait, la scène du bain turc, par exemple, c'est une journée de tournage complète.
Ah, putain, c'est chaud, hein.
Et une journée. Tu vois, parce que justement, il y avait Candy Shy avec ses prothèses, Myriam avec ses fausses pattes de bouc, etc. Toutes les passes à faire avec les doublures mannequins, les SFX, les VFX et les SFX, parce qu'il y avait un peu des deux.
Puis nous, on est confortable au show, on est en train de vous défoncer.
Non, c'était un challenge en termes de confection, parce qu'on prend
tournage de nuance, il faut le reconnaître.
Mais aussi, c'est parce qu'on le veut, c'est-à-dire que nous, on aime les effets pratiques aussi. C'est-à-dire que on voulait absolument faire tout en vrai, comme le disait Alex. C'est-à-dire que, tu vois, Myriam, bah, elle a vraiment des fausses pattes de bouc. Elle a pas des collants verts façon l'armoire magique là, ou tu vois, je sais pas où. Et donc où on Narnia. Lui rajoute Narnia, où on lui rajoute des pattes après et tout ça. Non, elle a vraiment, tu vois, un costume, tu vois, adapté à elle et tout. Et pareil, cette mort, c'est avec quand même un double, avec un mannequin animatronique, donc qui est hyper long à mettre en place, à resetter. Et effectivement, on s'est mis plein de contraintes. C'est-à-dire qu'il y a des animaux, il y a des enfants, il y a des effets pratiques dans tous les sens. Mais
le tournage en cité de nuit, tu vois, c'est mine de rien, c'est aussi un facteur qui fait que les cités belges, c'est pas les cités françaises en fait. Tu vois, à côté, nous, c'est des enfants de cœur, hein, vraiment. C'est-à-dire que nous, on voulait tourner dans une cité.
J'ai vu Black, quoi.
Ouais. On a, bah voilà. Mmh. Non, mais vraiment, tu vois, c'est-à-dire qu'on a fait des castings de cité. Mmh. Et celle qui nous plaisait le plus, on a dit, bah nous, on veut tourner là. Les mecs nous ont dit, non. Non, c'est-à-dire que c'est la police, en fait. Tu vois, il y a des assurances au cinéma, effectivement. Mmh. Et en fait, donc là, t'es obligé de prévenir la police, parce que nous, on a fait des tournages de nuit dans les cités. Et les mecs nous ont dit, si vous allez dans cette cité, nous, on ne viendra pas. C'est-à-dire, si vous arrivez le moindre pépin et que vous nous appelez, personne ne vient dans cette cité. Elle est trop dangereuse. Donc, tu vois, ça prouve déjà, ça te met dans le bain. Donc, on a trouvé des cités plus calmes pour tourner, mais mine de rien, tu vois, c'est des... En fait, c'est facteur emmerdant, c'est les effets spéciaux de plateau. Tourner avec une ribambelle de gamins de 16 à 18 ans aussi, je peux te dire que ça, c'est un challenge. La scène du kebab, on l'a tournée en une journée aussi, elle nous a rendu fous. Mais fou.
Tu parles de la scène d'ouverture.
La scène d'ouverture. Mmh. C'est-à-dire que les mômes, ils sont pleins de bourre. Et tant mieux, c'est ce qu'on cherchait. Mais c'est quand même des gamins à canaliser qui partent en freestyle partout. Qui sont
jamais, manque un peu de clarté, du coup. Moi,
qui sont jamais raccord.
Cette scène d'ouverture, hein, c'est peut-être aussi dû à ça.
Voilà. Mais pourtant, c'est une des scènes qui n'a jamais bougé à l'écriture. Mais en tout cas, c'était aussi un facteur à gérer, tu vois. Et c'est pas pour se plaindre, hein, parce qu'à la fin, on a rentré le film et c'était une expérience super. Mmh. On s'est éclaté, on a des souvenirs géniaux. Mais pour vous donner, enfin, surtout pour les auditeurs, une sorte d'équivalence qui, nous, est très marquante, en fait, qui nous a vraiment marqué. C'est-à-dire que quand on montait Candisha, donc avec Baxter, c'était notre retour avec Baxter au montage, qui est très important aussi, parce que Baxter, pour nous, a un rôle vraiment très important dans notre filmo. Et enfin bon, bref, c'est un hors sujet, mais
on avait déjà parlé de lui, hein,
voilà, mais c'est très important. Bref, et bah, on montait et en fait, dans une salle où il y avait les plans de travail d'anciens films qui venaient d'être montés, bref, et en fouillant, on tombe sur le plan de travail d'une grosse comédie française, tu vois, une suite d'une grosse comédie française, et qui est complètement nulle. Tu sais, c'est Tanguy 2. Et donc Tanguy 2, chant contre chant dans des appartements, tu vois, il n'y a pas d'effets spéciaux. Hein. Et par curiosité, on déplie le plan de travail. Les plans de travail, il faut savoir que c'est des gros feuilles à 4 minutes à bout pour le nombre de journées de tournage. Et on se rend compte que les mecs ont 45 jours de tournage pour faire du blabla dans des appartements feutrés. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui branle 45 jours, mais on est 20 jours de plus que nous. Tu te rends compte, Julien, sans déconner.
Ouais, non, mais je sais.
Mais là, on s'est dit, il y a un problème. Surtout qu'ils n'ont pas 2 millions et demi non plus pour faire Tanguy 2. Tu vois, ils ont au minimum le triple. Mm. C'est-à-dire, t'es en dessous de 10, mais t'es en dessous de 7. Et là, on se dit, ah ouais, putain. Et donc, on était, du coup, relativement fiers de ce qu'on avait, nous, réussi à rentrer dans telles circonstances, avec finalement pas trop d'argent, des comédiens non professionnels et des conditions de travail qui étaient funky, quoi.
Et justement, il y a un truc qui est admirable, parce que là on vient de vous allumer et puis après j'aurai une autre question à vous poser là-dessus, mais par contre il y a un truc qui est admirable dans le film, c'est que il y a que je trouve assez naturel là pour le coup, qui est votre façon en fait de traiter la cité, en fait, qui est relativement stylisée, en fait, et qui est il y a une y a presque une recherche esthétique en fait là-dedans au niveau du travail sur les couleurs et tout. Alors il y a des scènes plus ou moins marquantes, c'est-à-dire que par exemple la scène de la piscine, c'est tout à fait marqué en fait, le côté extrêmement graphique en fait de ça, mais il m'a semblé que ça courait en fait sur la totalité du film en fait, cette volonté en fait d'avoir un décor réaliste certes, mais on va pas le prendre tel quel pour autant, on essaie d'en faire vraiment un objet de cinéma quoi.
Bah ouais, bien sûr, en fait c'est marrant ces questions là.
Ça me rappelle
Bob Weinstein quoi.
Ah non, moi je pense à ce mec là. Attends. Bob Weinstein. Ah ouais, pourquoi?
Ah ouais, qui nous faisait un coup une menace et un coup qui nous disait vous êtes des génies, mais attention, je vous pète la gueule.
Non, si vous êtes pas des génies, vous êtes pas des génies les mecs.
Ils ont pas expliqué. Tu m'as traité de Bob Weinstein là, putain, mais qu'est-ce que
tu fais? Déjà, les gens sont insultés. Miramax là?
Alors, on va tout de suite à la question suivante.
J'ai pas dit Harvey, hein, j'ai dit
et
Bob.
Et on a pas dit que t'étais un génie, ouais, hein, non plus.
Déjà,
calme-toi.
Et alors, donc oui, la cité. Alors, non, oui, en fait, pour nous, c'était évidemment l'élément central. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'Alexandre disait qu'on avait fait un casting de cité. C'est que nous, on cherchait des éléments assez, assez particuliers. C'est-à-dire que, en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était le côté architectural de la cité. C'est-à-dire qu'avec, tu vois, que des lignes de fuite qu'on pouvait utiliser donc pour construire nos cadres et qui surtout qui enferment nos personnages. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que littéralement ces gamines qu'on filme, elles ont pas d'horizon en fait, et donc au sens propre comme au sens figuré,
à part sur le toit, qui est aussi une scène qui au niveau de la narration fonctionne très bien.
Exactement.
Moi, je trouve,
ouais. Et donc nous, c'est ce qu'on voulait montrer, c'est-à-dire que dès qu'elles sont dans la cité, en fait, elles ont pas de perspective, c'est-à-dire qu'elles sont enfermées par du béton, et donc en fait, finalement, elles sont condamnées à vivre dans cet environnement. Et sur le toit, c'est leur refuge, c'est leur moment, c'est le moment de l'espoir, c'est le moment de la fin du film, putain, mais en fait, on peut s'échapper quoi. Et donc il y avait ce côté-là, et le côté aussi qu'on trouve nous.
Même s'il y a un tout petit truc en fait qui est un peu étrange, je trouve.
Ouais.
C'est l'immeuble, la barre d'immeuble qui. C'est amorcé parce qu'elle le mime au début.
Ouais.
Et à la fin, ça saute, et en fait, je me suis dit, mais.
Oh, mais c'est dit ça. Putain, mais vous avez dormi, les mecs, en fait. Ah ouais, il n'y a pas de règles.
Il y a un panneau, pardon.
Il y a un panneau.
Ouais, mais on vient.
Je sais pas, je me suis fait des scènes autour de ça, quoi.
Ça m'a pas gêné. Puis pourquoi ça te gêne, ça?
Parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est complètement.
Une tour à l'abandon.
Ça, c'est Michael Bay, mais de loin.
C'est la fin. Pardon.
C'est Michael Bay de loin.
C'est un peu nous.
Petit Michael Bay.
Il te fait leur un compliment, là.
Mais non, mais en fait, je me suis dit, d'accord, mais ça. En fait, t'aurais pu le couper dans le truc, ça aurait été aussi simple. Ça aurait pas raconté grand chose de plus, je trouve. C'est ça que.
Couper quoi, la scène?
C'est-à-dire, en fait, le fait qu'elle pointe le truc, votre histoire de panneau que j'ai peut-être pas grillé, tu vois, parce qu'en fait j'étais en train de manger des cacahuètes, j'en sais rien, non, mais en fait non, je sais pas, cette histoire de panneau j'ai pas fait attention, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a ce truc au début, il y a ce truc à la fin, et je me dis ok, à part une symbolique éventuelle, tu vois, je fais bon,
c'est ça en fait, justement, non,
il y a un côté symbolique,
oui, exactement, c'est ça, oui,
c'est leur repère, la tour Vega,
pour le coup,
il y a qu'un côté,
tu vois, il y a non mais vraiment,
mais non, parce qu'il y a un truc qui a un rapport avec le fantastique aussi. Puisque c'est là-bas aussi qu'elle découvre le truc et tout. Enfin,
exactement. Moi, tu vois, c'est là où leur avis est mort.
Pour le coup, Stéphane, je ne suis pas d'accord avec toi.
C'est pas grave, viens.
C'est la sépulture de leur copine. Et c'est aussi l'endroit du deuil. C'est là où ils peignent la fresque des parents.
Ouais, ouais. Arrête de faire. Il fait comme ça, là. Il n'est pas content, là, le grec. Non. Non, mais pour revenir sur la cité, en tout cas. Attendez, monsieur Moïsakis, parce que moi, j'ai des choses à dire. Parce que là, vous parlez de cité. Et nous, on a toujours trouvé avec Julien, Maury, que les cités étaient très cinématographiques, justement. Mmh. Très cinégéniques. Et vraiment, mais vraiment, sans déconner. Hein. Et c'est pour ça que j'aime Bande de filles, justement. Parce que je trouve que Siama, on peut ne pas aimer son cinéma, mais pour le coup, dans ce film-là, elle a pris aussi en compte ça. Et enfin, bon, bref. Et donc, nous, on avait cette volonté de filmer la cité, pas de façon onirique, mais en tout cas, pas d'un regard médisant, ou tu vois, ou d'un regard de genre, c'est de la merde.
Vous voulez, pas misérabiliste, voilà, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous assumez par exemple le côté terne, par exemple, et là tu dis voilà. C'est logique qu'elle fasse des graphes, mais c'est pas misérabiliste pour autant.
Et on trouve ça très beau, tu vois. Et tiens, voilà, c'est marrant que vous soyez là, monsieur Moïsakis, parce que avec Julien, nous avons eu la chance de voir la version longue de La Horde.
Oh, mais... Et laissez-moi parler, laissez-moi finir.
Je t'en prie.
Et dans la version
on va sortir, les gars.
Il y a un plan qui n'est pas dans la version finale du film et qui est pour moi un des plus beaux plans du film et qui me dit mais pourquoi ils l'ont pas gardé. Et là, là où tu vois toute la beauté de la cité, justement, c'est juste un travelling latéral quand les mecs se rendent chez les Marcoudi pour aller les buter. Et...
Ils se rappellent mieux du scénar que moi.
Non, mais c'est vrai, où tu vois et ouais. T'as le soleil qui se couche sur les cités. Et quand avec Julien on avait vu la version longue de Rand, c'était putain, mais c'est ça, sublime, qu'est-ce que c'est beau. Et ça nous avait marqué ce plan, bizarrement, Steph. Mais vraiment, en disant, ben voilà, nous, c'est ça ce qu'on veut faire sur une heure et demie. C'est-à-dire montrer que la cité, c'est. Parce que c'est vrai que c'est moche. Mais. Enfin bon, soyons honnêtes, les toits.
Non, mais en fait, c'est graphique encore.
C'est très graphique.
Voilà.
C'est-à-dire
que. Oui, mais vous avez ramené en plus beaucoup de jeux de couleurs, en fait.
Mais voilà, c'est-à-dire que nous, c'est.
Non, mais vous avez raison, vous êtes des génies, les mecs.
C'est ce qu'on a.
Si vous citez la Horde.
Tu vois. Non, mais tu vois, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire que c'est avec, par exemple, le premier plan. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a un truc, donc un plan aérien, donc clairement. Voilà, qui survole un petit peu la cité. Et donc. Qui est voilà qu'on peut interpréter comme on veut. Pour nous, c'est un petit peu ça déjà, ça évoque un peu l'esprit qui arrive. Et en fait, donc plus ça avance, en fait, plus donc on s'enferme dans le cadre et on descend et finalement les barres montent sur les côtés. Et en fait, au milieu de tout ça, il y a cet espace de vie en fait qui est le kebab.
Un petit point chaud.
Voilà, il y a un point chaud. Très lumineux avec des couleurs flash fluo, tu vois, même un peu de mauvais goût, quoi, tu vois, avec un décorum de palmiers, un peu, tu vois, mais c'est là qu'il y a la vie, en fait, et plus on s'approche, et plus on entend des éclats de rire, et on entend qu'il se passe des choses, là. Et en fait, nous, c'était ça, c'était tout le cœur du film, ça peut être résumé par ce plan, c'est-à-dire, comme tu dis, les apports de couleurs et tout, ils viennent pas n'importe où, n'importe quand, en fait, ils viennent dans l'hôpital, où il y a un aplat jaune, pardon, très, très, tu vois, très, très criard, comme ça, et en fait, c'était notre chef-op aussi. Pardon, excusez-moi, j'ai respiré.
Simon Roca, ouais.
Ouais, Simon Roca, je crois que j'ai respiré un poil de ton chat.
Tu survivras.
Simon Roca, en fait, avec lequel on a travaillé ça. Et justement, c'est ces couleurs qui symbolisent aussi, donc justement, un peu des respirations dans le film, quoi. C'est un peu l'espoir, c'est un petit peu des moments de vie, tout simplement, quoi. Et donc ils sont à des endroits clés du film, quoi. Et donc ça participait de ça, de cette vision en fait de la cité qui tordait un petit peu le cou au cliché, quoi, de cette espèce de sarcophage de béton vide et mort. Et donc nous, c'était ce qui nous intéressait, nous, c'était de montrer que dans cet amas de fer à béton et tout, comme dans la tour Vega qui est tout abandonné, bah en fait au sein de cet univers qui est décrépit, qui est dégueulasse et tout, qui est à l'abandon, bah t'as une fresque magnifique. Tu vois, pleine de couleurs et pleine de vie, et finalement, tu vois, au sein de ça que naissent, tu vois, les nos personnages.
Ou ce truc, cette idée aussi très jolie du graphe sur le bus qui ramène le papa à la maison aussi, quoi, qui je trouve fonctionne bien et justement crée bien de l'empathie avec les personnages.
Ah bah
quoi.
Tu vois.
Mais oui,
ah,
mais
je suis content.
Parce que ça m'amène à mon autre point, en fait, que j'ai un problème. Non, mais je suis désolé,
Alexandre. C'est une question sur deux, putain.
Non,
je pensais qu'on avait fini, en fait.
Moi, c'est vraiment mon dernier gros grief, en fait, sur le film.
Non, mais j'aimerais qu'on entende Clémence plutôt.
Tu l'avais déjà fait, ça, Julien.
Ça suffit,
Julien. J'ai un problème, mais c'est pas. En fait, c'est moins un grief, en fait, qu'une vraie question, une vraie interrogation, en fait, sur le truc, où je me dis, bon. Julien et Alex, ils veulent faire du film de genre. Je vous connais quand même un peu et je sais que vous n'êtes pas à regarder votre public de haut ou quoi que ce soit. Et il y a un mécanisme en fait de rapport au spectateur qui me manque assez souvent en fait dans vos films. Et alors là, pour moi, c'est assez flagrant, qui est la question de l'empathie avec les personnages principaux. Moi, j'ai pas de problème avec Bintou, j'ai pas de problème avec Morjane. Mais par contre, avec Amélie, j'ai un énorme problème. Et c'est le personnage, il me semble, avec lequel je devrais avoir le vrai point d'accroche. Je vais essayer d'étayer un petit peu le truc. C'est que ce personnage m'est présenté comme... pour moi, c'est une boule de haine. Elle gueule sur tout le monde. Je comprends relativement tardivement à quel point elle est attachée à son petit frère. C'est pas un truc qui m'est évident depuis le début. Elle est même pas proche en fait de ses copines et tout. Moi, personnellement, en tant que spectateur, je n'ai pas envie de la suivre en fait. Mmh. Et elle aurait été tuée en fait tout de suite en fait par Candisha. Je vous dis pas que j'aurais été content, mais pas loin. Donc la question, en fait, c'est vous, quand vous êtes en train d'écrire en fait ce truc-là, parce que pour moi, ça, c'est un frein à mon implication en fait dans le film. C'est-à-dire que prenons Halloween par exemple. Je prends les points sensibles pour Alex, mais le personnage de Jamie Lee Curtis, tu t'es tout de suite attaché à elle parce qu'elle est un peu en rupture, t'es pas en rupture de banc avec les autres, tu sens tout de suite qu'elle est en fragilité.
L'as pas senti ça chez Amélie,
mais pas du tout en fait, parce que elle gueule sur son père, elle gueule sur ses copines, elle gueule sur tout le monde.
Elle gueule sur son père, elle est en vraie rébellion avec ses parents.
Elle gueule sur son petit copain, tu vois.
Elle est très gentille tout de suite avec son frère et elle est très très copine avec ses
copains. Je suis désolé, mais quand la meuf elle se met à engueuler l'imam, tu vois, alors que celle qui a foutu la merde depuis le début du film.
Mais oui, mais allez,
à un moment donné.
Non, mais
en fait, ce que je dis, Julien, et je vais juste renchérir là-dessus pour One Two Punch. Tu vois, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un truc. C'est vrai. C'est vrai que c'est un truc en fait. Moi, je suis pas aussi catégorique sur ce personnage-là que Julien. Non. Mais c'est vrai que ça ressemble au personnage d'Alison Paradis dans l'intérieur.
Mais c'est vrai qu'on
ça
aime
ressemble
les...
un
raison.
Petit peu comment dire au personnage dans The Deep House, tu vois, c'est des trucs en fait où
Livid surtout aussi.
Ouais, mais Livid je la trouve pas si enfin moi j'avais moins en tout cas de soucis vis-à-vis de ça,
mais c'est vrai,
des personnages où tu te dis dans un film d'horreur où t'es censé en fait avoir effectivement une empathie émotionnelle et surtout
bien sûr,
sans
Steph.
Spoiler la fin quand même quelque chose tu vois de, qui est censé être émotionnellement fort, tu vois, et du coup en fait du coup l'attachement je trouve se manque à ce moment-là. Et
mais est-ce qu'une femme
genre,
par exemple
oh putain,
tu veux laisser Clémence répondre à ta place.
Non mais dans l'absolu t'as raison, parce que
c'est qui tout double, ça se trouve elle a détesté aussi.
C'est
juste
c'est ton joker. Ok, allez, vas-y Clémence.
Non mais moi je suis pas du tout d'accord avec
voilà Clémence.
Moi je ne trouve pas,
trahi par la famille quoi.
Mais non, mais alors il y a peut-être vraiment une question de genre derrière, et je serais curieuse d'avoir l'avis d'autres femmes qui ont regardé ce film, parce que moi je le trouve pas antipathique ce personnage. Je trouve que c'est un personnage qui a un caractère fort, effectivement, qui peut ne pas plaire, mais moi ça m'a pas dérangé du tout, et je préfère largement qu'on montre une nana qui va un peu montrer les crocs, qui va être petite teigne au moins au début. Parce que ça change justement des personnages de filles fragiles et gnagnagna, et voilà, ça montre autre chose. Alors, et des filles qui vivent dans les cités et qui ont ce caractère là, il y en a, et c'est aussi une forme de construction justement pour réussir à se faire respecter, à s'en sortir dans ce milieu-là. Non mais c'est vrai.
Attends.
Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que
il y en a une qui a compris,
voit sa sensibilité au fur et à mesure qui transparaît, et ça apparaît pas tout de suite, mais petit à petit tu le sens. Moi, du premier coup, et là pour le coup, je dirais même que c'est peut-être un peu trop évident, on la voit qui s'occupe de son petit frère au début, tu veux que je t'aille faire tes devoirs. Ok, il va se passer un truc, le petit frère, elle le soutient. Mais vraiment, je ne l'ai pas trouvé antipathique, je l'ai trouvé plutôt crédible. Et plus on avance dans le film, plus on voit qu'elle est déstabilisée, et voilà.
Les gars, c'est exactement ce que vous avez voulu faire.
Mais c'est vrai. Ouais. Non, mais ça rejoint un peu...
C'est Clémence répond.
Non, mais tu vois, il y a un truc qu'on aime, nous, en tout cas, au cinéma, et qu'on avait aussi essayé de faire sur Les Orfesses, même si Les Orfesses, c'est un autre débat, parce que le film nous a totalement échappé, mais c'était... nous, on aime...
Voilà. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire de film en film. Voilà. Et ça fait enfin, on arrive à notre but.
C'est de ramener de l'empathie sur des gens, justement, où au prime abord, t'en as pas forcément. Et ça, c'est quelque chose qu'on adore en fait. Tu vois, c'est le côté un peu Devil Rejects du film, c'est-à-dire, tu vois, pour nous, Devil Rejects, ça reste un film phare pour nous, parce que là, tu te dis, putain, bah, exactement comme dit Clémence, moi, j'en ai un peu plein le cul aussi de voir des gens un peu, tu vois, moi, j'adore Halloween, mais le personnage de Jamie Curtis, personnellement, je m'en fous totalement. Comme je m'en fous totalement du personnage de Neve Campbell dans Scream.
Alors, déjà, tu compares pas les deux.
Non, mais bon. Tu vois, pour parler d'une franchise avec une héroïne forte qui a vraiment traversé la franchise.
Non, bien sûr.
Et moi, avec Julien, nous, on n'est pas du tout intéressé par ce genre de personnage. Et dès nos débuts, c'est-à-dire qu'Alison Paradis, nous, on la voulait antipathique. Et après, dès le départ. Et après, on voulait justement que de cette antipathie naisse l'empathie pour les personnages. Parce qu'on a tous un côté antipathique. On trouve que ça a un côté plus humain, finalement, que de ramener des.
Certains plus que d'autres.
Des personnages, tu vois.
Est-ce que ça va pas, encore une fois, à contrario de cette volonté de faire un film de genre populaire, qui plaise au plus grand monde, avec une certaine efficacité.
Ouais, mais alors ça, pour nous, c'est ce qu'on essaie de faire sur Deep House, pour le coup, où on trouve que, par exemple, Camille est vraiment
c'est lui,
dans ce
c'est
côté...
Lui, c'est plutôt lui qui est antipathique, en fait, dans
voilà,
le film. Mais,
voilà, où elle a vraiment ce côté, tu vois, jeune fille, très bien sous tout rapport, qui est très belle, on s'attache très vite à elle. Mais en tout cas, juste pour finir, excuse-moi, Steph, sur Candisha, nous, c'était le but, c'était un peu comme on est... fait sur Leatherface, c'est cette thématique qu'on kiffe, c'est-à-dire prendre des fils de pute qui ah bon, c'est exagéré pour Candisha, elle n'est pas du tout aussi méchante que les personnages de Leatherface, mais c'était ramener de l'empathie pour une gamine qui, de prime abord, tu dis, ah, elle est désagréable, alors, et puis en fait,
mais
ah,
mais
c'est
mais
pas que
cas,
ça, et en fait,
cas,
elle se forge son caractère.
Dans ce cas, justement, pourquoi pas jouer, en fait, parce que du coup, moi, mon manquement là-dedans, en admettant qu'en fait, ça soit la démarche, et je peux comprendre que ce soit la démarche parce que je comprends ce que vous essayez de faire à la fin, hein, pourquoi ne pas jouer une vraie séquence émotionnelle, en fait, sur la fin? C'est-à-dire que, en gros, ce que j'entends par là, plutôt que de jouer sur un truc de suspense, assez court, hein, mine de rien, sur la main, sur qu'est-ce qui se passe, en fait, comment se débarrasser de Candisha, pourquoi ne pas jouer une vraie séquence émotionnelle, en fait, qui irait, je veux pas spoiler pour les gens qui ont pas forcément vu le film, mais voilà, enfin vous savez de quoi je parle, plutôt que cette espèce de truc, parce que du coup, j'ai envie de dire, pour donner un exemple éventuellement, même si je trouve que la scène fonctionne pas complètement dans le cadre du film, dans La dernière maison sur la gauche par exemple, la scène du lac, en fait, si tu veux, tout un truc émotionnel dans le remake, tu vois, où d'un seul coup, tu te dis, tiens, il est en train de se passer un truc sur le personnage, tu vois, même si je trouve qu'il se rate après derrière parce que finalement, c'est annulé. Tu vois de quelle scène je parle? Après le viol, après tout ça, tu sais.
Dans le remake?
Ouais, dans le remake, t'as cette scène où elle se fait tuer dans l'eau, en fait.
Elle meurt pas dans le remake. Hein.
Alors, elle meurt pas, justement, c'est tout le problème, mais la séquence est traitée de manière émotionnelle.
Et il y a un
vraiment forte, et du coup, en fait, le fait qu'elle meurt pas, ça baise le.
Et moi, j'ai une autre question là-dessus, alors attention, je spoil un tout petit peu, mais du coup, quitte à jouer sur la potentiel sentiment de culpabilité, enfin, en tout cas, le parcours rédempteur, on va dire, de ce personnage-là, pourquoi avoir fait disparaître ses parents? Et totalement, en fait, de l'équation. C'est-à-dire que c'est ces personnages qui sont plantés, qui sont clairement là, en plus, au début du film, et qui disparaissent, mais alors radicalement, totalement ensuite.
Alors c'est des scènes qu'on a coupées, figure-toi. Ouais. On avait énormément de scènes avec les parents, et on les revoyait. Donc, effectivement, il ne reste plus que la scène d'intro avec les parents, puis après, la fin avec le père qu'on voit dévasté. Mais c'est des scènes qu'on a coupées parce que, justement, en termes de rythme, justement ça ralentissait vraiment 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 beaucoup l'action. C'était ramené des scènes très bavardes, et c'était vraiment à chaque fois qu'on se les projetait, qu'on projetait à tout le monde, etc., tout le monde revenait sur putain, quand on revient sur les parents, c'est dur des plombs, on s'en fout, etc. Et c'est vrai que quand on les a coupés, nous ont pas manqué, hein. Tu vois, bah, apparemment, hein, tu peux avoir toi ressenti ce manque. C'est vrai que c'est des personnages qu'on a un peu sacrifiés au montage. Mais ça, c'était vraiment un choix de main dans la main avec toute l'équipe. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'est pas les seuls décisionnaires. Avec Julien, on a notre mot à dire, le final cut. Et puis si vraiment un truc ne nous plaît pas, on le fera pas. Mais là, quand t'as ton monteur qui dit, les gars, la scène, quand on revient avec les parents, c'est chiant, etc. Et puis après, quand les prods te le disent, toi, nous, c'est un travail d'équipe, hein, de faire un film, évidemment. Et puis après, on dit, bon, ok, nous, on est toujours à essayer.
T'as pas justifié forcément là-dessus.
Non, mais enfin, tu vois, donc on essaie sans.
Donc ça manque quand même, c'est ça l'idée.
Bah écoute, pour nous, ça nous manque pas.
Oui, en tout cas, c'était là.
Moi, j'ai trouvé qu'il y a un arc narratif là, j'ai ressenti un
petit vide. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus développé, ça a été tourné, tu vois, mais ça n'a pas été monté.
Et du coup, en fait, dans les manques éventuels du film, est-ce que justement dans les scènes, parce qu'il y a l'idée de les rentrer, d'arriver à rentrer ces scènes-là, de les faire parce qu'elles sont complexes à faire, mais est-ce qu'il y a aussi des trucs où vous vous êtes dit, ok, là on est obligé de couper? Par exemple, moi je pense à la scène en fait du gars qui se fait brûler en fait vif, quoi. C'est un peu abrupt, en fait, la façon dont c'est présenté, et du coup c'est presque, tu vois, je me dis, mais attends, d'accord, j'ai compris ce qui s'est passé, mais en fait la scène, elle est pas, tu vois, elle est un peu bizarre, quoi, tu vois, elle est expédiée, on a l'impression, quoi. Donc je sais pas,
est-ce que ça coûte cher les flammes en CGI?
C'est ça, c'est du CGI. En vrai, hein.
Ah, c'est vrai. Oh.
Non, de dos, évidemment, c'est un cascadeur qui brûle. De face, non.
Oui, oui, voilà, c'est...
évidemment. Mais
vous n'avez pas cramé un vrai gars?
Bah, si, de dos.
Ouais.
Mais non, pour le face. Coup, cette scène, elle était. Non, elle n'allait pas plus loin que ça, honnêtement.
C'est vrai,
c'était le premier meurtre, non. Et c'était surtout. Bon, on en revient toujours aussi à ces problématiques aussi de confection. C'est-à-dire que toute la scène intégrale de la piscine jusqu'à la mort du mec était tournée en une nuit. C'est-à-dire que les nuits sont courtes. C'est-à-dire que c'était en été, Et donc la nuit noire arrivait à 23h et à 5h il y avait du soleil. Mmh. Donc on a tourné toute cette scène-là plus la crémation du mec en 6h. Donc, tu vois, toute la scène de la piscine, hein, avec tous les dialogues, et encore on l'a coupé en plus cette scène. Et il y avait des plans séquences, etc., avec de la figure. Et donc, cette scène-là, dans l'absolu, elle n'était pas plus développée parce que c'était aussi une question de temps. Et on y revient toujours. Alors, c'est pas une excuse non plus, hein, bien sûr. Mais,
non, mais, non, vous, mais travaillez dans vous travaillez dans des petits budgets aussi.
Il faut comprendre le contexte, effectivement. Il y a encore un vrai contexte. Fois, nous, on est là pour. Mais avec nos petits avis à la con derrière, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent en face de nous, quoi.
Non, on n'est pas du tout en souffrance, non, ça, hein, c'est plus Alain là.
Il nous a insultés là, déjà.
C'est clair, putain, l'enculé, t'as rien dit de méchant à dire, toi.
Puisqu'on parle de temps, de couper des scènes, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Mais en fait, on termine sur une note un peu négative, faut quand même
dire. Non, mais peut-être laisser
en fait, vous avez même pas dit vraiment si vous aimiez ou pas, en fait.
Non, non, alors moi j'ai une réserve.
Moi j'ai une dernière question.
Écoutez
Clémence, tiens.
Moi j'ai une dernière question. Oui. Et on s'arrêtera là-dessus. Parce que vous en avez posé assez.
Allez.
Bon, non, mais attends.
Non, mais je voulais dire mon sentiment quand même. Parce que tu dis toujours est-ce qu'on y va ou pas.
Ah, et puis vous n'avez pas dit le mot avant, vous dites un
non,
mot.
Non, mais il n'y a pas de
on
mot.
On le fait
là.
Pas dans les
saison 2.
C'est la nouvelle formule, c'est la nouvelle saison.
Il y a la 4 saison, il y a 5 ans.
Bon, est-ce que Julien, tu veux donner ton avis?
Non, non, mais c'est
une petite conclusion façon.
Non, non, parce que j'ai beaucoup allumé le film et tout. Je veux dire, comme le dit Steph déjà, en plus, c'est un vrai. C'est un vrai film fantastique qui triche pas du tout avec le genre. Et ça fait vraiment plaisir. Avec effectivement des vrais effets en direct qui sont extrêmement rares, en fait, et qui font plaisir. Et avec un travail sur un décor et un contexte social qu'on voit très peu en France. Et dans l'absolu, moi, j'ai des réserves. Je les ai énoncées. Je les ai soumis, je crois, avec le
Tu préfères Deep House que Candy Shop.
Oui, je préfère Deep House, bien sûr, mais par contre, ça fait plaisir, quoi, et c'est totalement louable. Il faut le soutenir, le film. Et puis, comme l'a dit Julien, ça fait chier que le film passe à travers les grilles de l'économie, en fait. Il faudrait qu'il y ait acheté le... Alors, il ne sort qu'en DVD, il ne sort pas en Blu-ray, c'est ça?
Du moins en France, ouais.
Mais essayez au moins de le louer, etc. Parce que c'est important, je pense, de soutenir un film comme ça. Rare.
Et monsieur Moïsakis, alors, parce qu'il faut savoir,
attends,
parce que
moi, Clément, j'avais une question.
Ah, mais attends, tu vas la poser pour finir ta question, Clément.
D'accord.
Juste parce qu'il faut savoir pour les auditeurs que depuis qu'on fait des films, depuis 2007, ça fait 5 films qu'on fait, 5 fois que Steph nous dit, bon, les gars, je vous kiffe, hein. Mais c'est de la merde. Alors, est-ce que c'est ton film préféré ou ça reste quand même...
Bon, les gars, je vous
comment tu le classerais? Parce qu'on est parti de 0 avec à l'intérieur, on est monté à 2 avec Livid.
Non, mais c'est ce que j'ai... Attends,
on est à quoi, là?
C'est ce que je...
Il est pire que moi, l'enfant. Tu pourrais t'aider en plus, toi.
Non, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien.
Attends. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alex m'a dit, on a une condition.
On voulait pas savoir votre avis.
Il met des conditions.
Conditions, non, si vous étiez d'accord.
Voilà. On veut que ce soit Clémence qui aime le film. Et on veut que... Non. La condition, c'était, il fallait pas qu'on vous dise ce qu'on avait pensé du film avant qu'on commence à enregistrer. Donc en fait, c'est
parce
vraiment.
C'était plutôt balls, quoi.
Voilà, sans filet. Mais ça, c'est votre truc, hein. T'aimes bien.
Non. Non, mais c'est courageux. Il faut le saluer. C'est vachement bien.
Je le salue.
Et je te défends.
Non, mais après, c'est un film. C'est ce que je vous ai dit, en fait. C'est-à-dire que, en gros, entre les lignes, en fait, dans les conversations qu'on a eues, moi, j'ai un manquement énorme sur certains trucs du fantastique, sur les règles. J'ai un manquement énorme sur certaines scènes de meurtre où, en toute surface, si tu veux vraiment savoir, je pense que vous avez. En fait, on ferait des scary movies, il y aura une ou deux scènes qui passerait ici. Vous feriez vanner un peu là.
Comme quoi?
Bah, la scène avec le vieux et justement la scène de la maternité, c'est un peu chaud, quoi. Moi je la trouve un peu ridicule, la scène, mais
c'est intéressant.
Alors,
je vais me mettre à côté de Clémence, en fait. Voilà.
Sors le popcorn.
Il y a ça et la scène de, comment dire, de l'exorcisme, en fait, où je trouve que, en fait, la fabrication est, en fait, c'est un peu étrange, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des moments où tu souris un peu, si tu veux. Donc, mais après, c'est, encore une fois, ça participe du truc que, de toute façon, vous faites un film fantastique en France qui est déjà extrêmement complexe, tu vois. Et avec, en fait, sans vous casser la nénette, c'est-à-dire qu'on va pas rigoler à, même si ça arrive, en fait.
Scary Movie, quand même.
Non, mais j'ai dit Scary Movie pour dire, voilà, en fait.
Il aurait pu dire Scary Movie 5.
Tu fais vraiment. Est-ce que tu t'es fait chier?
Non, pas du tout.
Ah
non, mais bon. Alors attends, parce que.
C'est déjà bien, parce que ça fait 5 films qui se fait chier.
Alors, c'est un film qui dure 1h25.
Par rapport au remake de Candyman,
c'est largement mieux. Enfin, je trouve, tu vois. Enfin, c'est largement mieux, c'est à peu près mieux. Non, mais
bon, vas-y.
Non, mais en vrai, voilà, je trouve que en fait, il y a un travail qui est soigné, etc., etc. Il y a des manquements de mise en scène pour moi.
Il n'y arrive pas à être gentil.
Mais bah, vous me demandez mon avis, d'un seul coup, j'y vais, quoi. Et regarde, Alex Clément, c'est. Mais qu'est-ce que tu veux que je...
Après, on va se faire gronder par Alain. On est en train de dépasser, exploser le chrono.
Et Alain, t'as aimé, toi? Et en plus, râles parce qu'on est trop long.
Toute petite parenthèse, il est sorti sur Shudder, donc aux États-Unis, Canada, Angleterre. Et en fait, on a des retours dithyrambiques. Donc, comme d'habitude, nos films sont vachement plus aimés à l'étranger qu'en France, où on se fait souvent défoncer et on est bizarrement à l'étranger, on est très très bien vu. Et énormément par un public féminin. Moi, j'ai reçu énormément de messages.
Ouais, mec.
Les filles adorent le film. Donc, il y a beaucoup d'empathie vis-à-vis de nos personnages.
Bon, laissons finir, Clément.
Eh bah, écoutez, c'est moi, je vais conclure. Moi, j'ai bien aimé le film. Je vais pas rentrer en détail dans toutes les questions qu'on a déjà posées, mais j'ai particulièrement apprécié le rythme. Je trouve que c'est un film dans lequel il n'y a pas de gras, et donc on n'a pas temps de s'ennuyer. Il n'y a pas de superflu dans la narration. Et pour ma part, j'ai pense avoir compris à peu près tout ce que vous avez voulu raconter. Moi, j'ai passé un très bon moment.
T'es en train de dire qu'on est un peu con?
Non.
C'est possible. On est peut-être un peu con.
Je ne me permettrai pas.
Heureusement qu'il y a Clémence, c'est clair.
Heureusement, les mecs.
Non, mais j'ai bien aimé. J'ai trouvé les personnages féminins bien écrits. Chaque personnage
c'est
est
pas
montré
une question, ça.
À un moment donné du film.
Attends,
elle donne son avis. Elle
a le droit de donner son avis aussi.
Et montrer, on voit un petit peu de la vie de Bintou, on voit un petit peu de la vie de Manjana, on voit de la vie d'Amélie, évidemment. Et finalement, les personnages masculins, même s'ils se font tous zigouiller les uns après les autres, bah, restent au second plan, en quelque sorte. Et j'ai apprécié ça, parce que effectivement, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et la question que je voulais vous poser, tu mentionnais la scène de l'exorcisme, Steph. Est-ce que vous prenez de la drogue? Parce que franchement, cette scène, ça ressemble vraiment à un bad trip à l'acide.
Bah, c'est une scène déjà qu'on a tournée en une journée aussi.
Parlons de micro,
mine de rien.
Alex.
Et qui était un vrai bordel. C'était tourné en studio. Et c'était aussi un vrai défi au montage. C'est-à-dire que c'était assez ardu de faire une scène d'exorcisme sans tomber dans juste du face-à-face avec des incantations un peu Et nous, on voulait faire quelque chose de très visuel avec des jump cuts, des effets de montage, des effets d'image qu'on a fait sur le plateau, etc. Donc, c'était. Il y a un côté effectivement un peu LSD, tu vois. Mais c'était voulu vraiment.
Moi, j'ai bien aimé. Hein.
Voilà, mais enfin... c'était. C'était, tu vois, comme
une Clémence, on sait.
Et ça dit.
Et toi, tu prends la drogue, Clémence.
Ça t'a rappelé.
Non, parce que tout le monde, nous, on est très sage avec Julien. Non, on se drogue pas. Moi, je bois même pas d'alcool, pour te dire. Bon, après, des fois, on fume un petit pétard ou deux, mais ça reste gentil. Mais j'y avais pendant le travail. Tu sais que c'est la règle de John Carpenter, ça, et qu'on tient. C'est, Big John a dit le pétard, oui, mais au wrap, c'est-à-dire à la fin de journée. Quand c'est wrapé, on peut fumer.
On
fume pas.
Sobre.
Parce qu'on en connaît, nous, des réals qui travaillent en fumant. Hein. Mais on en connaît plein. Hein.
Balance des noms.
Non, mais c'était. Non, mais...
Ah, ils se reconnaîtront.
Non, parce que Carpenter, non, il a d'autres règles. Hein.
C'était l'idée. C'est ça, c'était qu'il fallait. Enfin, nous, ce qu'on voulait, c'était justement une perte des perceptions. Et en fait, qu'elles soient totalement désorientées. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait travailler avec des jump cuts. Tu vois, on voulait.
Chacune
montrer...
a son propre bad trip.
Exactement. Voilà,
et
ouais.
En fait, et du coup, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'elles ont, elles ont vraiment. On revient à ce que disait Julien tout à l'heure. Mais là, pour le coup, là, elles ont vraiment chacune leur petite souffrance. Une par le froid, une par le chaud, et l'autre qui
par le tiède.
Bon, bref, je crois qu'il est temps de finir.
Non, mais le mec, il fait sa propre parodie de ce qui est remové dans le podcast.
J'espère que ça vous a donné envie de voir le film quand même.
Mais écoutez, Candisha de Julien Maury et Alexandre Bussillo, vous pouvez le voir sur toutes les plateformes de VOD dès à présent et il sera aussi dispo en DVD le 3 novembre.
Et en coffret avec Scary Movie 1, 2, 3, 4, 5.
On ne se quitte pas tout de suite, on va d'abord passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait du dernier James Bond, Mourir peut attendre, et l'équipe a livré sa critique, qui n'était pas si négative que ça.
Mitch négative. Allez.
Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Écoute, je ne l'ai pas encore vu.
Salut l'équipe, salut les auditrices et les auditeurs, c'est Alain à la technique. Alors moi j'ai vu James Bond hier, honnêtement c'est un film d'action qui se tient, il y a un bon cinéaste à la barre, ça se regarde en salle, il y a une histoire, mais ce n'est plus un James Bond dont au bout de 5 films on a réussi à complètement vider la franchise et ça m'emmerde un peu. Donc moi en fait, j'ai beau me faire spoiler par l'équipe pendant l'enregistrement, je vais pas voir un James Bond pour ses twists et son final. Personnellement, c'est pas ce qui m'attire. Pour moi, James Bond, c'est avant tout un personnage fun, cabot, excentrique. Mais c'est pas un homme ordinaire, c'est pas François Hollande quoi. Moi aujourd'hui, James Bond, il me fait penser à ce vieux pote que t'as pas revu depuis 10 ans et que quand tu le retrouves, ben on se marre plus.
Salut l'équipe de Capture, bravo et merci pour tout le travail que vous faites. Je suis vos épisodes avec énormément d'intérêt et de passion. J'ai écouté votre dernier épisode sur le nouveau James Bond et je dois dire être assez déçu de vous voir tourner systématiquement les films d'actualité vers des aspects négatifs. Et même quand vous essayez d'en dire du bien et de commencer de manière positive, vous arrivez tout de même sur un épisode de près de 3 quarts d'heure à lui consacrer 40 minutes de réserve et d'aspects négatifs.
Eh bien, Mourir peut attendre, c'est quand même pas terrible, quoi. Pour un dernier baroud d'honneur avec Daniel Craig, ça la fout un peu mal, je trouve. La première heure, elle est franchement excellente, c'est dommage. Il y a des petites variations sympas, et puis après, passer la mort d'un perso important, bah, le film a plus rien à raconter, en fait. Ça veut faire du mystère, super mystérieux, sur l'arme du méchant, mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est grave, on peut pas le dire. Alors qu'en fait, c'est tout con, quoi. C'est un truc qu'on a vu 3000 fois, dans 3000 films avant, ou même dans des James Bond. Où sont les scènes d'action qui pètent avec les cascades qui tuent, les cascadeurs qui se pètent la gueule en plan large où on dit ah ouais, wow, ah ouais, c'est cool. Mais non, il n'y a rien quoi. La scène d'action Norvège est naze, le climax est naze. Donc bon, vivement le reboot et qu'il nous fasse un truc fun quoi, merde.
Alors pour une fois, je suis vraiment pas d'accord avec vous et je trouve que si on estime que le dernier vrai James Bond c'est au service secret de Sa Majesté, c'est qu'on voilà, on n'est pas dans une position vraiment le public visé pour aller apprécier un nouveau film. Les films d'Anne Craig, pour moi, ils ont réussi à part Quantum of Solace à être leur propre film tout en parfois dialoguant avec les autres films. Et donc, si on est fan de la série, on apprécie le dialogue qu'il y a avec pour commenter sur les changements à travers Bond. Donc, je trouve que c'est réussi. Ça vaut le coup de le voir. J'ai passé un bon moment. Parfois, il faut juste se laisser emporter par les films et pas trop réfléchir.
Moi, je me déplace avant tout pour voir des scènes d'action complètement délirantes, hein, c'est-à-dire cette deux chevaux coupés en deux dans un Roger Moore ou cet hélico qui traverse un marché à Hanoï, la poursuite en char dans Saint-Pétersbourg, enfin voilà, c'est des trucs complètement déments qui n'existent qu'au cinéma. Mais James Bond au cinéma, c'est juste un pur fantasme de spectacle, quoi. Aujourd'hui, on a juste un film d'action comme les autres, très bien fait, voilà, mais on n'a pas d'excentricité, on n'a pas de folie, quoi.
Je suis assez soulagé que ce soit le dernier film de la période Craig, car Casino Royale était réellement le film qui m'a fait rompre avec la saga. Déjà à l'époque, j'étais pas convaincu par Daniel Craig dans le rôle, beaucoup trop froid, monolithique, brut de décoffrage. En plus, le personnage était moins un enquêteur et plus un gorille porte-flingue qui était envoyé pour accomplir des sales besognes. Ce qui est paradoxal avec les autres aspects de ces James Bond modernes que vous avez évoqués, le fait que ce soit un quarantenaire un peu paumé qui se fait engueuler par M, qui est en fait sa mère, ce qui a été maintes fois parodié dans la série animée Hatcher.
Moi, le dernier James Bond, j'ai beaucoup aimé. J'ai toujours trouvé que c'était des réponses au Batman de Nolan, les James Bond avec Daniel Craig, et pour le coup, finir le James Bond en tuant James Bond, je trouve que c'est très osé de la part d'un studio, chose que The Dark Knight Rises assumait beaucoup moins. Et je trouve que du coup, ça en fait la force du dernier opus avec Daniel Craig. Voilà.
personnellement, j'ai beaucoup aimé ce dernier James Bond. Alors, j'ai trouvé que le méchant interprété par Rami Malek était complètement sous-exploité et n'apportait strictement rien au film. Mais néanmoins, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de cœur dans ce film. J'ai trouvé que c'était très généreux en action. Et la fin, pour moi, est complètement satisfaisante et dans la lignée de ce qu'est la nouvelle saga James Bond depuis Casino Royale, ou Couscous Royale, hein. Donc voilà, pour moi, c'est une réussite, même si c'est pas le meilleur des Daniel Craig.
Ben, c'est Fred de Montréal. Comme le film est sorti vendredi soir, je suis allé le voir hier soir en famille. Eh bien, je me suis bien emmerdé. 2h40, très très longue. Une réalisation à plat, par 2-3 scènes d'action intéressantes. Aucune émotion, aucune manière d'amener le scénario. Quand même, à la fin, James Bond qui meurt avec le doudou de sa fille dans les mains. Enfin, je veux dire, il y avait de quoi faire pleurer dans les chaumières. Eh bien, rien, pas un frisson, rien du tout, très déçu. Voilà. Et puis, ben, je vous embrasse tous et à très bientôt et encore merci.
Avant de se quitter, une dernière information qui intéressera sans doute nos auditrices et nos auditeurs d'Île-de-France. Le 30 octobre prochain, réservez votre soirée. Vous avez une soirée Capture Mag qui vous attend au Club de l'Étoile avec la projection d'Invasion Los Angeles de John Carpenter. Vous retrouvez toutes les informations sur Facebook. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Alexandre, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci à vous.
Merci.
Stéphane, merci Julien, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode.
Désolé.
Merci Clémence. Oh non, moi je suis pas désolé.
Je vais laisser un message sur le répondeur pour la prochaine fois.
Et puis merci bien sûr à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si c'est la première fois, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon, ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, il y a d'autres façons de nous soutenir, vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast ou encore vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. Salut!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.